Bonjour, je suis Steve.
Et moi, on est Bunny.
Et vous écoutez Comic City. C'est le 28e épisode de notre podcast, donc le podcast de deuxième partie de mois, avec les sorties DC, quelques sorties Marvel, un peu de librairie aussi. Et donc cette fois-ci, Honey Bunny est avec nous, car Mig se repose, il a pris quelques vacances, et donc il reviendra d'ici bientôt. Donc en attendant, c'est Honey Bunny qui nous fait l'intérim, gentiment, qui a trouvé un
Voilà.
moment dans son planning. Donc voilà, donc ça va bien, Bunny?
Oh, très très bien, ouais, très très bien. Très heureux d'être là, la pêche. Pas du tout au fait, mais on va faire comme si, allez.
C'est ça de regarder WrestleMania. Ça
Voilà, ouais, c'est
décale.
ça.
Ça décale. Si vous entendez du son derrière, c'est normal. Il y a un gros vent qui souffle et donc il se peut que ça fasse un peu des petits artefacts sonores sur le podcast. Et je suis pas sûr que ça s'efface au montage. Donc je préfère prévenir à l'avance si vous entendez des bruits bizarres. C'est le vent. Ok,
C'est ce qu'on
donc.
dit, hein, c'est ce qu'on dit.
Ouais,
Si, toujours, hein, si vous entendez des bruits bizarres, c'est le vent, bien sûr.
Ok, donc comme d'habitude, on va commencer par nos news habituelles sur ce qui tourne autour du comics. Et donc, comme d'habitude, on va envoyer le petit jingle. On commence les news par un petit point chez Panini. Panini l'a annoncé sur leur Facebook. Le Big Book de Wonder Woman qui devait sortir en septembre est finalement annulé.
Oh.
Donc voilà, donc dommage, on n'aura pas de Wonder Woman en France. Ça craint parce que j'aime plutôt bien ce que fait Gail Simone sur le titre. Et donc voilà quoi. Donc VO pour ceux qui veulent. Ou alors, à moins qu'il soit que repoussé, mais pour le moment en tout cas il est annulé. Il n'y a pas de nouvelle date de prévu. Voilà, dommage.
Bah ouais, dommage quoi, puisque en plus bon, on a déjà tellement peu de Wonder Woman que là,
Bah ouais, à la
c'est
base, je
dommage.
crois que ça devait être les épisodes 20 à 33 publiés dans le Big Book. Voilà, donc bah tant pis.
Bah, Panini prend un petit peu les devants, je crois que c'est dans la post-phase de Trinity où il raconte que Wonder Woman aux États-Unis ça fonctionne pas des masses malgré que Wonder Woman soit un personnage très populaire, la série ne décolle pas. Donc je
Ben,
pense que bon.
on verra à partir de juin si ça décolle ou pas avec Straczynski sur le titre.
Ah
Peut-être
oui.
que ça va faire un effet d'annonce et que les gens vont prendre. On en parlait justement avec Mick dans les dernières news pour le dernier podcast. C'est vrai que après ce qu'il nous a fait sur Thor au niveau mythologique, on peut s'attendre à quelque chose de plutôt pas mal quoi pour Wonder Woman. Donc,
Ah, carrément bien, ouais, carrément, ouais.
après, il faut
D'ailleurs,
voir
ça
comment il va
pourrait me faire
gérer.
lire effectivement du Wonder Woman, car c'est vrai que je fais partie de ces personnes qui n'en lisent pas beaucoup.
Après, il faut voir comment il va gérer que ce soit un personnage féminin et pas un personnage masculin cette fois-ci. Alors, est-ce que ça va lui poser des problèmes ou pas? On verra bien, quoi.
Oh, attention, hein. Là tu vas fâcher certaines personnes qui vont dire tout de suite que Straczynski va la faire coucher avec, allez, je sais pas moi, le père de son pire ennemi,
Non, mais
dans le genre.
le souci, c'est que voilà, est-ce qu'il va pouvoir gérer un personnage féminin héroïne aussi bien qu'il avait géré Thor? C'est vrai que là, c'est la question qu'on peut se poser, quoi.
Ouais.
On verra bien. On verra bien, de toute façon.
Il avait bien géré Loki dans le. Mais enfin bon, c'était une super vilaine, on va dire.
Ouais, puis c'était pas le personnage principal non plus, quoi.
Enfin, quoique, hein, c'était.
C'est
Voilà,
vrai.
quoi.
C'est vrai que, ouais, on se demande quand même.
Hein, quand même, Loki avait vraiment une part importante dans ses scénarios, donc voilà. Faut voir.
Ok, sinon, quoi d'autre? C'est la Wonder Coast ce week-end. Aux États-Unis, donc on regardera un petit peu les annonces et puis je pense qu'on fera un petit point sur le site des grosses annonces. On essaiera de limiter les spoilers, mais de toute façon on préviendra quand il y aura des spoilers. Voilà, donc c'est le début, c'est ce qui marque quand même le début de la saison des conventions aux États-Unis. Donc là, ça va pas arrêter, mais à partir de maintenant jusqu'à la convention de San Diego, quoi. Donc voilà.
Ouais, c'est ce qui est étonnant, puisqu'en plus, dernièrement, enfin ces derniers mois, DC et Marvel ont quand même fait pas mal de buzz, quoi, en fait. Ils ont essayé de se concurrencer un petit peu sur le jeu des annonces. Donc qu'ils en aient encore en stock, c'est quand même énorme, quoi.
Bah là, la WonderCon, généralement, c'est les annonces pour l'été, quoi. Ce qui arrive comme gros projet l'été, où on donne des annonces, on fait des teasings un peu avant. Donc, bah, comme on a vu tout le renouveau Avengers, dont on va pas parler ici pour éviter des spoilers, mais tout le renouveau Avengers, les arrivées, donc enfin l'arrivée de Straczynski sur Batman et sur Superman, pardon, et Wonder Woman, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour le début de l'été. Je pense qu'on va avoir des news sur ce qui va se passer vraiment cet été. Bah, il y a aussi le gros truc chez Spider-Man aussi qui va se passer cet été, normalement, je crois.
Il va se passer quelque chose, ouais,
Ouais.
théoriquement.
Voilà,
Voilà.
il y a la fameuse annonce de Quesada aussi, donc peut-être qu'on va en savoir plus là. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, ce sera pour la fin de l'année, quoi. Comme pour San Diego, on a plutôt ce qui arrive d'ici la fin de l'année, quoi. Donc voilà,
Ouais, le
c'est.
prochain gros crossover Marvel ou le prochain gros crossover DC, à mon avis.
Ouais, voilà, on verra.
Le truc de 2011, quoi. On verra.
Ok, on va passer peut-être. Ah non, tu avais oui la news sur les Guardians of the Globe,
Ah
dont
oui,
tu voulais
alors les
nous parler.
Guardians of the Globes, ou of the Globe d'ailleurs,
Ouais, il n'y en a qu'un seul.
oui, il n'y en a qu'un seul, c'est au fait c'est chez Image, depuis maintenant un mois environ, on a commencé à publier des images au fait de cette future série de Robert Kirkman. Alors en fait les Guardians of the Globe c'est quoi? C'est des espèces de pseudo-Avengers à la sauce Image, on peut dire ça, hein, de toute
Ouais, c'est
façon,
ça, ouais, c'est ça,
c'est ça grosso modo.
Avenger, JLA, un petit peu, un mélange de
Voilà,
grosses équipes comme ça.
scénarisé par Robert Kirkman, qui est la grosse star Image, puisque c'est lui qui fait Haunt, Walking Dead, qu'est-ce qu'il fait d'autre?
Invincible,
Invincible,
ouais.
hein?
Stanley Wolfman aussi, mais qui va s'arrêter là prochainement.
Qui
Il a fait
fait...
beaucoup de choses, hein, chez Image, de toute façon.
Ouais, et puis aussi tous ces comics, tu vois, qu'il crée avec l'espèce de concours, là, tu vois, où il présente cinq projets différents, tu te rappelles de
Ouais,
ça?
c'est chez Topco, là, chez Pilot Seasons. Non, Pilot Season,
Voilà,
pardon,
ouais,
ouais.
voilà.
Que de chez Topco cette année, ouais.
Voilà. Donc Robert Kirkman fait beaucoup de choses, il est très prolifique, et donc il va lancer prochainement une série à la Avengers chez Image. Et le truc, c'est que le mois dernier, ou ce mois-ci, je sais plus, c'était au début du mois, ouais, ça devait être au début du mois, enfin Image a fait des petits teasings au fait sur les futurs membres de cette équipe, et on pouvait voir par exemple des gens comme Rick de Walking Dead. Ce qui était assez étrange puisque Rick n'a pas de super pouvoir comparé à Invincible, enfin même il n'en a pas du tout.
Puis oui, enfin, c'est même pas du tout le même monde d'ailleurs.
C'est pas du tout le même monde, oui, ça semblait absolument absurde. Et on en est arrivé d'ailleurs à un teasing avec Obama comme membre des Guardians of the Globe. Et au final, donc c'était au fait un gros joke. Et la vraie équipe se constitue des personnes suivantes. Donc on a Britt.
Qui est une création Kirkman.
Voilà, qui est une création de Kirkman, que je ne connais pas du tout. En fait, je connais quasiment aucun des membres des Guardians of the Globe. Il y a aussi Kaboomerang. Donc, je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
Pas du tout, pas du tout.
Donc, il y a
Enfin,
peut-être des castings.
j'ai vu les images personnellement, mais bah voilà, moi Image, je suis très très peu de séries, donc voilà, ça me parle pas vraiment.
Alors, il y a Outrun qui doit sortir d'Invincible, il me semble.
Possible.
Voilà, si je dis des bêtises, bah, on n'a qu'à nous le signaler. Il y a Yeti, un espèce de Yeti, comme
Mais
son
je me
nom
demande si
l'indique.
c'est pas le Yeti de la série Proof.
Ah, peut-être, oui.
Moi, quand j'ai vu le visuel, c'est à ça que j'ai pensé. Alors maintenant, je peux peut-être me tromper, mais ouais, j'ai vraiment eu l'impression que c'était le Yeti de Proof, quoi.
Et justement, il y a Bulletproof.
Ouais.
Comme personnage, qui ressemble assez à l'autre avec ses boomerangs. Enfin voilà, bon, il y en a peut-être encore quelques autres, mais là je les ai pas listés. Donc bon, une équipe, voilà, qui est pas spécialement attirante au fait.
Bah,
Je pense que
c'est ce qui est censé protéger la Terre, si j'ai bien compris, pendant qu'Invincible est parti dans l'espace pour enfin, le gros arc Viltrumite War. Bon, bah on verra quoi. Enfin, moi je sais pas, je suis pas attiré par ce projet, quoi. Les annonces étaient drôles, je trouve, parce qu'elles repompaient le visuel qu'avait fait Marvel pour tous ces nouveaux Avengers qui arriveront après Siege. Donc ça c'était drôle, mais sinon je suis pas attiré par l'équipe, quoi.
En gros, le pitch, c'est ici Kirkman écrivait les New Avengers, quoi, en gros. Puisque bon, il se fait ses propres New Avengers avec sa propre équipe, ses propres créations. Bon, par contre, les persos ont pas l'air super sexy et super attirants, quoi, comme
Bah
ça.
après, faut adhérer au concept image, quoi. Faut en lire, je pense. Faut être vraiment dans. Faut être vraiment versé dans l'univers image, qui n'est plus mon cas depuis très longtemps. Donc, c'est pour ça
Ah,
que
moi aussi.
je pense que personnellement, je m'en fous un peu, quoi. Je jetterai peut-être un œil, je sais pas, mais là, comme ça, il m'a pas forcément vendu le projet, quoi.
Ouais, et puis en plus, faut déjà, à mon avis, apprécier Invincible pour apprécier cette série.
Pourtant, j'apprécie Invincible, tu vois, mais.
Ah, moi, ça m'a toujours laissé un peu froid, Invincible, bizarrement.
Les goûts, les couleurs.
Voilà.
Ok, on va passer maintenant au côté cinéma un petit peu. Alors,
Avec
la
le vent
grosse
qui souffle.
annonce. Ouais, le vent qui souffle, c'est assez terrible. C'est assez gênant d'ailleurs.
Non, mais ça faisait une belle transition.
La grosse annonce, c'est le rôle de Cap. Il a enfin été attribué et on sait maintenant qui c'est. Je te laisse
Ah,
annoncer.
quel grand acteur, vas-y.
Ben c'est Chris Evans qui va jouer le rôle de Cap. Donc Chris Evans, vous avez pu le voir dans le rôle de Johnny Storm dans les Fantastic Four. Et donc là, pour moi, il y a un énorme souci. Il y a un énorme souci.
Ouais.
Ah ok, il est blond, comme Steve Rogers. Bon,
Ouais.
ok. Maintenant, le problème, c'est quand même que il est connu des gens au cinéma pour avoir fait Johnny Storm.
Ouais, qui est un autre personnage de la même franchise, ce qui est quand même ballot.
Voilà, alors le souci c'est quand même que Marvel veut faire que ces films s'intercroisent, puisque Iron Man va apparaître dans Avengers, on fait le film de Cap, on prépare tous les films, on prépare Thor et tout pour faire un film Avengers. Donc jusque-là l'idée est bonne, je trouve. Maintenant, il y a quand même un petit risque à nous mettre quelqu'un qui a joué un autre personnage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Fantastic Four ne fait pas partie de ce monde-là, du monde de Marvel, des Avengers, etc. Ou est-ce qu'on nous prévoit peut-être de nous faire d'autres Fantastic Four, donc avec un autre personnage, donc forcément un reboot? Là, je sais pas. Je sais pas où ils veulent en venir, et pour moi, ça me pose un énorme souci. C'est pas le choix de l'acteur en lui-même qui soit bon ou qui soit pas bon, c'est même pas ça, c'est le principe du fait qu'il ait joué quelqu'un d'autre chez Marvel, quoi.
Ouais, ça fait un
Et je
petit
pense
peu.
que ça peut créer la confusion dans l'esprit
Oui,
des gens.
puis bon, c'est dommage parce que comme tu le disais, bah voilà quoi. Du coup, on sait très bien que les 4 Fantastiques vont pas s'intégrer là-dedans, ou bien alors ils vont refaire des films 4 Fantastiques parce qu'il y avait des rumeurs qui parlaient d'un relaunch aussi de cette franchise au cinéma. Donc je ne sais pas en fait.
Je pense qu'au bout d'un moment, les reboots de franchise, ça devient chiant, quoi. Enfin, je veux dire, faut arrêter. On n'a que ça, quoi. Donc, bon, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils veulent. Je
Comme
sais
dans
pas ce
les
que vous.
comics, comme
Ouais,
dans les
voilà.
comics, on a des reboots tout le temps maintenant au cinéma aussi.
Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez via les commentaires, vous aussi, du choix de Chris Evans sur Cap. Moi, je sais que personnellement, c'est quelque chose qui me gêne. Bon après peut-être qu'il va très bien s'en sortir, hein. C'est juste le principe de choisir un acteur qui a déjà un autre rôle chez Marvel, quoi. Alors peut-être aussi que Fantastic Four n'est pas dirigé par Marvel même, mais peut-être chez la Fox ou Paramount, je sais pas. Peut-être une histoire de maison, enfin de boîte de prod qui sont pas les mêmes. Mais je trouve que c'est un pari risqué. Bon après, voilà. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous donner votre avis, quoi. Ça te laisse un peu froid, Benny.
Ah ça oui bah écoute la suite hein, j'ai envie de dire.
Bryan Singer qui reviendrait sur la franchise X-Men pour diriger, enfin pour réaliser, voilà, peut-être le faire à la française, ce sera mieux, pour réaliser X-Men First Class. Donc ça a été la grosse rumeur de la semaine d'avant, et finalement ça a été démenti par Singer et par la Fox. Donc la Fox chercherait toujours quelqu'un. Bon, bah ouais, enfin moi je sais pas, déjà le projet X-Men First Class personnellement m'attire pas,
Ouais. Voir ce qui
donc
s'est passé avant m'attire pas des masses quoi.
voilà. Bon,
Mais
bon.
tu sais que par contre c'est le mec qui avait fait Iceman dans les X-Men justement qui va faire le rôle de Spider-Man dans la nouvelle franchise Spider-Man au cinéma.
Ah, je ne savais pas, non. Bon,
Non, je déconne,
ah bon.
je déconne. Évidemment que c'est pas vrai. Bon.
J'allais dire, bah, il continue donc. Mais...
Non, 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 je plaisante.
Ouais, donc bah, on verra bien, on va suivre un petit peu ce que ça donne, qui sera réel sur First Class. Bon.
Ou est-ce qu'il y aura First Class? Est-ce qu'il y aura un X-Men 4? Puisqu'il y a aussi des rumeurs qui veulent qu'il y ait un X-Men 4 en fin de compte. Est-ce que Singer sera de la partie? Bref. Perso, moi je m'en fous un peu en fait que Singer soit là ou pas.
On aura peut-être droit à un reboot des X-Men.
Oh bah oui, tant qu'on y est, oui, pourquoi pas. Hein. Ou
Donc
bien
voilà.
alors, faudrait peut-être qu'ils se mettent au film en image de synthèse aussi, un jour.
Ouais, bon, il y a le temps encore. Je pense qu'il vaudrait mieux confier ça aux gens de chez Disney, peut-être.
Voilà, ouais.
Ce serait peut-être mieux.
Maintenant qu'ils sont avec, pourquoi pas. Et X-Men pourrait être le premier dans la mesure où X-Men, faut se rappeler que c'était le premier film Marvel, enfin la première vague, quoi. Vraiment le premier. De la nouvelle vague, je voulais dire.
Bon, on verra. De toute façon, on va continuer de suivre toujours les annonces, hein, comme d'habitude, et on vous les fera partager dans nos news classiques. Quoi d'autre? J'ai pu voir le trailer de Scott Pilgrim, qui est sorti chez Miedit Graphics ce mois-ci, mais on n'en parle pas dans nos reviews, puisque on l'a pas
Puisqu'on
tous
parle
lu.
pas de manga chez nous. Non, je déconne. Le mec n'a pas compris. Bon, c'est un comics, paraît-il, mais quand même, moi je. Fouf, au secours. Quand je vois les dessins, c'est terrible.
Moi, je l'ai lu. Et donc j'ai vu la bande-annonce. C'est en tout cas plutôt prometteur. C'est très ressemblant à ce qui est dans le comic lui-même. Et je sais pas, ça peut donner quelque chose de plutôt pas mal. Faudra voir ce que ça donne.
Alors tu m'avais dit quand même que le comics tu l'avais lu, que tu t'étais fait chier pendant une bonne partie et que finalement à la fin ça devenait pas trop mal.
Ouais, voilà, je me suis fait un peu chier pendant les 100 premières pages et les 50 dernières pages, je sais pas, ça vire complètement et. Ça devient absurde mais drôle. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui fait que ça m'a donné envie de lire la suite quand même. Donc voilà, bon après, je sais pas. Je sais pas. C'est quelque chose qui me laisse un goût bizarre, un goût de j'aime pas, mais je veux quand même lire. On verra bien. Mais en tout cas, je sais pas. Le film m'a donné une petite envie de. Enfin, en tout cas, ça m'a rappelé exactement ce que je voyais dans le comic. Et voilà, ça me l'a vendu. Je pense que j'irai peut-être voir ça.
D'accord, ok. Bon bah écoutez, Scott Pilgrim, pour ceux qui sont pas allergiques au dessin, ça peut vous plaire.
Voilà, c'est en même temps une review très rapide et en même temps une news.
Voilà, exactement. Et puis en plus il y a le film, donc vous avez le package, voilà. Faites ce que vous voulez.
Voilà. Toujours au niveau du cinéma. Voilà, donc ça c'est, je pense, quelque chose qui va te plaire, Benny. Peut-être as-tu entendu parler du film, du gros blockbuster de cet été, enfin de la fin de l'été aux USA, The
Eh bien, pas du tout, car comme je te disais tout à l'heure, je ne me soucie plus de ce qui se passe au cinéma, tant dernièrement les films m'ont tous déçu. Donc non, bah si, j'en ai peut-être entendu parler au fait juste de nom, mais j'ai vu aucune bande-annonce, aucune image, rien.
Bah, pour le moment, j'ai pas trouvé de bande-annonce, ou alors j'ai mal cherché, mais. Bon, voilà, The Expendables, c'est un film qui sort chez Lionsgate, qui sort le 13 août aux USA et le 25 août en France.
Ouais.
Donc,
Théoriquement, hein, parce que si je me rappelle bien, 2012 devait sortir à la fin de l'été, et il est sorti en novembre ou en octobre, je sais plus, enfin un truc dans le genre.
ouais, bon, il se peut qu'il y ait des sorties
Ouais.
repoussées. C'est vrai que j'ai trouvé, au niveau des dates US, j'ai trouvé deux dates possibles. Sur le site officiel, c'est le 13 août. Sur la page Wikipédia du film, c'est le 20 août aux
Ouais, ce qui se
USA.
passe, c'est ouais, c'est souvent décalé, les gros blockbusters comme ça. Mais bon, on verra.
Donc voilà, et donc c'est un gros, gros, gros film d'action.
Ouais.
Dans la vague d'ailleurs, il y a un retour de ce genre de film d'action comme l'Agence Touriste qu'on a pu voir, qui va bientôt sortir au cinéma, je crois,
Ouais.
qui n'est pas encore sorti. Il y a The Losers aussi, qui est dans le même genre, et donc là c'est le même genre de scénario avec une équipe qui se fait avoir et qui va aller chercher une équipe genre un peu Black Ops qui va essayer de se venger.
Ouais.
Voilà. Mais alors attention, c'est que là, le casting est monstrueux. Déjà, c'est un film qui est réalisé par Sylvester Stallone lui-même.
Ah d'accord, ok, ouais.
Voilà. Et au casting, on retrouve donc Sylvester Stallone,
Ouais.
mais aussi Jason Statham,
Ouais.
Jet Li,
Ouais.
Dolph Lundgren,
Ouais.
Eric Roberts,
Putain, mais c'est énorme. Ouais.
Mickey Rourke,
Oh là là.
Bruce Willis.
Non, mais attends, c'est une blague. C'est
Non,
pour
c'est
le
pas une
1er
blague.
avril.
C'est pas une
Ils
blague,
font
non, non.
démentir au 1er avril.
Non, non, je t'assure que c'est pas une blague. Hein.
Ah, bah, on verra au 1er avril. On n'y est pas encore.
Schwarzenegger qui jouera son propre rôle vite fait, il fait peut-être un petit caméo dans son rôle de gouvernator, hein, bien sûr.
C'est énorme. Mais non, mais attends, c'est pas possible.
Je
C'est
t'assure,
eux
ça fait
l'équipe?
longtemps.
C'est eux l'équipe de malades?
Ouais, c'est eux l'équipe de malade. Alors certains, je pense que Bruce Willis va plus faire une petite apparition qu'un rôle récurrent dans le film, il sera pas en tête d'affiche,
Ah
voilà.
bah attends, ce sera peut-être le méchant. Qui serait le méchant?
Ah, je sais pas. Je sais pas. Mais il y a surtout un personnage qui va te donner envie de voir le film. C'est Stone Cold Steve Austin.
Ah, Scott Key, Steve Austin là-dedans. Ah non, mais ils sont vraiment allés chercher les grosses masses alors.
Et ouais, non, mais là, c'est vraiment le film d'action à l'ancienne avec toutes les stars des années 80, donc comme bah, ça, années 80 et 90, comme Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Eric Roberts, voilà, plus des gens récents comme Jason Statham, Jet Li, donc on a un mélange entre ancienne vague et nouvelle vague de films d'action, et je pense que ça peut donner quelque chose de monstrueux à cause du casting, quoi.
Mais attends, c'est quand même énorme cette news. Bon, on verra si elle existe toujours 1er
Ah non,
avril.
non, mais ça fait très longtemps que le film est en préparation. Moi, j'en
Ah ouais,
entends
d'accord,
parler
mais on n'a
depuis
vu
très
aucune
longtemps.
bande-annonce.
Ah ben non, la bande-annonce n'est pas encore faite. Bah, de
C'est
toute
peut-être une
façon,
grosse blague d'Hollywood quand même,
ça
non?
sort le 13 août. Ah non, non, bah, moi, j'ai entendu parler du projet il y a de ça déjà des mois. Donc
D'accord,
voilà,
ok.
quoi. Et donc, si j'en parle pour le truc pour un podcast comics, c'est parce que chez Dynamite va sortir en mai une mini-série qui est une sorte de préquel au film et qui sera écrite par Chuck Dixon. Est dessiné par Steve Pauls.
Ouais.
Donc Chuck Dixon qui commence à avoir maintenant la réputation de faire des mini-séries préparatoires à des films, puisque c'est lui aussi qui a fait la mini-série sur A-Team, donc l'agence tout risque, sortie aussi chez Dynamite, je crois.
D'accord.
Donc puis bon, qui a l'habitude quand même de gérer un petit peu les équipes comme ça, puisque Chuck Dixon a écrit pas mal de temps G.I. Joe, à l'époque de chez Image Comics, je crois. Donc enfin voilà quoi. Donc ce sera une mini-série préparatoire. Donc voilà, puis ça sort en mai. Hein, donc chez Dynamite. Mais voilà, ça c'est un film, je pense, qui moi qui suis pas pourtant gros gros film d'action, là rien qu'à cause du casting,
Ouais.
je pense aller voir ce film parce que voilà, c'est tous les acteurs qu'on a pu voir quand on était gamin dans les gros films, qui sont réunis en un seul, je sais pas, je trouve ça magique quoi.
Ouais, c'est tellement too much que ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être
Ah,
énorme.
puis pour
Ça
la
peut
touche
être.
glamour, on a quand même Charisma Carpenter dans le film.
En plus.
Donc voilà.
D'accord.
Ah,
Ok.
je sais pas. Bon. Bah moi de mon côté j'ai plus d'autres news. Je sais pas si tu te restes encore de la news sous le pied ou pas.
Écoute, après ça, je pense que je pourrais pas faire mieux. Donc, je pense qu'on va passer à nos reviews hein, quand même.
Ouais voilà, donc allez, on va attaquer maintenant les reviews et on commence par Spider-Man hors série numéro 30. Il y avait dedans donc la mini-série Dark Reign, The Sinister Spider-Man numéro 1 à 4, puisque c'était en 4 parties. Le scénario de Brian Reed, les dessins sont de Chris Bacalo, l'ancrage est de Tim Townsend. Bon, alors, moi déjà, franchement, j'étais pas du tout enchanté à la lecture de ça, puisque 4 numéros dessinés par Chris Bacalo, voilà, je suis vraiment pas un grand fan du gars, donc déjà, ça me posait un bon problème.
Ouais.
Effectivement, il y a quand même des planches qui sont à la limite de l'illisible. Des moments où on
Oh.
comprend absolument rien de ce qui se passe.
Moi, tu vois, j'ai oublié un peu que c'était Chris Bacalo au dessin, tant le scénario m'a pas, enfin, j'ai pas, non, c'est pas l'histoire du siècle, quoi. Mais j'ai passé un bon moment. Moi, j'ai bien rigolé au fait à la lecture de ce Spider-Man. Donc,
Ah
j'en ai un
ouais.
petit peu oublié le dessin. Ouais.
Ah ouais, d'accord.
Ah tu le prends comme ça. Ah bah très bien.
Ah non, non,
Ah bah
mais
très
non, mais
bien.
c'est très bien, ça va faire deux éclairages différents parce que moi j'ai trouvé ça pathétique en fait. Donc
Alors vas-y,
Ah ouais,
fais.
non, moi j'ai trouvé ça pathétique, les blagues tombent à plat. Il y a deux, trois lignes de dialogue qui sont bien senties, mais dans l'ensemble, ça m'a pas arraché de sourire une seule fois. Je trouve que les gags sont plus goofy les uns que les autres. Excuse-moi, j'ai pas le terme français, j'arrive pas à le retrouver.
Ouais, plutôt Vandame.
Voilà, puis c'est de l'humour pipi caca qui me fait pas rire. Alors pourtant le pipi caca a tendance à me faire vraiment rigoler, mais là je sais pas. Tout tombe à plat. Ou alors c'était moi qui étais vraiment pas bonne humeur en lisant ça. Pourtant j'ai lu en plusieurs fois et non non je suis voilà. Pour moi disons que même le dernier épisode, je me suis forcé pour le lire quoi.
D'accord, à ce point-là, ok.
Ah ouais, non j'ai vraiment pas aimé. Il y a rien qui m'a plu dedans quoi.
Alors je sais pas pour l'humour pipi caca, parce que au fait, faut préciser que toi, tu lis pas mal de choses en VO, donc celui-là tu l'as lu en VO, je crois.
Ouais, oui, je l'ai en VO, bah tout, de toute façon, je lis tout en VO, donc.
Et moi j'ai chopé donc la version française. Et au fait en français. Peut-être que donc les traductions sont pas forcément les mêmes, parce que moi ça m'a pas tellement choqué. Au fait, j'ai pas ressenti tellement qu'il y avait de l'humour un peu trop trash. Enfin, je sais pas ce que t'appelles un truc pipi caca quoi.
Voilà, ouais, ça parle de pipi et ça parle de caca, quoi. Et de
Bon,
vomi.
ah bon? Parce que moi j'ai pas souvenir de ça quoi, en fait,
Ah bah
bizarrement.
le coup de Venom qui va vomir son écureuil mort sur le bureau de Jameson, enfin des trucs comme ça, tu vois.
Ouais,
Et
mais enfin ça c'est du Venom quoi. Enfin bon, ça m'a pas tellement choqué, parce que c'est un petit peu le McGargan Venom,
Ah
c'est un
puis
petit
j'aime. De
peu
toute
ça.
façon j'aime pas ce Venom déjà en plus, donc ce qui fait que ça n'arrange rien.
Ah oui, c'est vrai que bon. Non, mais là, on est d'accord. Mais en fait, je préfère encore lire un truc sur Venom par Mark Gargan, enfin, par Mark Gargan, enfin, tu vois, de
Ah mais
ce
oui.
nouveau Venom, que lire une mini-série sur Anti-Venom. Parce que je sais qu'il y a une mini-série sur Anti-Venom à venir. Je crois en plus qu'elle est dessinée encore par Chris Bacalo.
Mais on en a déjà eu, non?
On avait eu un one-shot, en fait.
Ah, c'était pas.
C'était
C'était.
tiré d'un extra ou d'un truc comme ça.
Ah oui, c'est vrai qu'il y en a une en 3 qui arrive là.
Ouais. Et
Qui est déjà
donc.
sortie aux States depuis un bon moment d'ailleurs.
Là, par contre, là, je vais souffrir parce que le personnage d'Anti-Venom m'est totalement inintéressant. Mais là, bon, c'est un membre des Dark Avengers. Il se fait passer pour un espèce de Spider-Man. Au fait, je sais pas comment les gens peuvent croire au fait que c'est le vrai, alors que de toute façon, il est évident que c'est pas les vrais, quoi. Tu vois, les Dark Avengers.
Non, puis bah, il y a des trucs, voilà, tu mets le doigt dessus en plus. Le fait qu'il soit autant adulé par la population, le côté, regarde Spider-Man quand il était Spider-Man, enfin quand c'était le vrai en tout cas, qu'il n'y avait pas deux Spider-Man pour le public, il a toujours été détesté quasiment. Alors que là, il est vachement mis en avant, il a les femmes qui se jettent sur lui, qui lui jettent ses petites culottes, tout ça. Voilà, tout ça fait que, bon, ça me gonfle quoi, en plus. Je trouve
Bah,
ça forcé quoi.
moi j'ai trouvé que c'était justement tu vois un petit peu enfin c'était fait exprès quoi tu vois c'était vraiment ce côté too much à mon avis il est voulu par Brian Reed
Ah oui, sûrement, oui, bah bien sûr, mais c'est que moi, ça rentre pas dans mes goûts, en fait. Vraiment.
ouais bah tu vois enfin moi je suis surpris parce que autant enfin je trouvais un petit peu que ça se rapprochait de Deadpool quoi un petit peu l'humour par moment.
Ah non, pas du tout. Enfin, moi, je trouve pas. Du tout, au contraire. Enfin, c'est vraiment un autre humour, quoi. Ça serait plus rapproché de Deadpool s'il avait eu des conversations avec son symbiote ou trucs comme ça. Là, c'est pas le cas.
C'est vrai, ouais. Non, mais enfin, je parlais des gags plus généralement. Enfin, ce que j'ai bien aimé, par exemple, c'est cette espèce de bande de super-vilains qui essayent de, donc, de, parce que bon, pour résumer l'histoire, en gros, c'est les aventures de Venom version Scorpion. Enfin, tu vois, le Venom des Dark Avengers qui est face à une bande de mecs qui veulent lui faire la peau, quoi, en gros.
Oui, puisque il va sauver les attaques de banque, etc. Emporte directement les vilains à la police, mais s'arrête dans une ruelle pour en bouffer un morceau, quoi.
Voilà, il a des, comment dire, des manières qui sont pas très héroïques, comme on s'en doute, comme tout d'ailleurs les membres de, quasiment tous les membres des Dark Avengers. Mais donc là, il y a toute une bande au fait de vilains et ça m'a fait marrer au fait. J'essaye de retrouver la page avec leurs noms parce qu'ils ont des noms à la totalement ridicules. Et par exemple, il y en a un. Moi, là, la scène qui m'a fait marrer, c'est ils racontent tous leurs rencontres avec Venom. Et il y en a un qui s'appelle le docteur Tout en français.
Ouais, le
Alors, je sais
docteur
pas.
Everything en anglais.
Bon, bah voilà, bon, bah c'est ça. Le docteur Tout qui dit, je suis docteur Tout, je vois tout, j'entends tout, je fais tout. Et les mecs lui disent, ouais, mais bon, ça t'a pas empêché de faire bouffer un bras par Spider-Man. Et le mec, il fait, ouais, mais c'est moi qui me le suis enlevé, je n'ai jamais croisé Spider-Man. Donc, moi, ça m'a fait marrer, quoi. Le mec est complètement fou.
Mais
On demande même ce qu'il fout là, tu vois,
le
parmi
gars
les autres.
n'est ni plus ni moins qu'une parodie du docteur Manhattan de Watchmen, quoi. C'est ah bah
Voilà.
c'est même enfin c'est clairement
Ouais,
dit quoi enfin
clairement, ouais,
je veux
puisque
dire le
même,
mec
il
ne
y
porte pas de fringues comme Docteur Manhattan, il n'en a plus besoin, il est au-delà de ça voilà quoi. Mais même ça, j'ai pas trouvé ça j'ai trouvé le clin d'œil à la rigueur à tout juste sympathique mais ça m'a pas fait rire quoi. Enfin je sais pas non, j'étais pas dedans quoi. Vraiment.
Puis même les autres, je les trouvais assez marrants. En fait, je trouve que Brian Reed arrive quand même assez bien à rendre. Alors, je sais pas, en fait, ce qui serait intéressant, tu vois, ce serait d'avoir eu Brian Reed au moins sur un épisode avec Spider-Man, le vrai Spider-Man. Parce que moi, je pense que il peut rendre la série un petit peu plus drôle et un petit peu plus. Enfin, moi j'ai apprécié cette lecture, alors que d'habitude, je me fais chier considérablement en lisant la série normale, quoi, Spider-Man.
C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas précisé. Spider-Man n'apparaît pas une seule page, hein, d'ailleurs. Donc, si vous aimez juste le Spider-Man et que vous n'aimez pas Venom, par exemple, un truc comme ça, n'attendez pas de le voir, vous ne le croiserez pas du tout.
Pas du tout, ouais. Par contre,
Donc,
bon, on est clairement dans l'univers de Spider-Man avec notamment Jameson qui.
chose bien, oui, ça se passe donc justement après Jameson qui a été élu au poste de maire. Donc, déjà, au moins, c'est publié dans ce sens-là. Par contre, alors là, je sais
Ah
pas,
oui.
il y
Oui,
a une
vas-y,
petite
c'est peut-être ce que tu vas dire.
référence à American Son.
Voilà.
Allié en français aussi?
Ouais.
Ah d'accord. Donc ça c'est génial. Donc comme ça, bah, vous êtes spoilé, hein, vous savez que ça se passe pas bien. Et American Son, vous aurez fini de le lire en juin.
Voilà, ouais.
Génial.
Ouais,
Merci Guy. Merci Panini.
Mais je sais pas pourquoi ils ont publié ça maintenant, quoi. En
Mais
fait,
surtout
pourquoi
qu'il n'y
cette
avait pas,
mini-série
ouais, enfin,
maintenant?
je veux dire, il n'y avait pas moins, enfin, ils pouvaient attendre juin, quoi. Je veux dire, ça posait pas de problème, quoi.
Ah oui, surtout, bon, parce que là, par contre, je suis d'accord pour dire que c'est une mini-série qui, qu'on la lise ou pas, je veux dire, ça n'a aucune incidence, hein. On peut tout à fait s'en passer. D'ailleurs, si vous avez peur de pas apprécier l'humour de Brian Reed, et si vous êtes allergique à Bacalo, bon, bah, enfin, moi, je vous le dis, j'ai passé quand même un moment sympa.
Si, je suis en train de réfléchir, je regarde mes notes un petit peu de ce que j'ai écrit sur la série. Il y a deux choses qui m'ont fait vaguement sourire. La première, c'est que Jensen voudrait que Norman lui envoie Miss Marvel avec un vieux sourire de pervers. Ça m'a fait un peu rire. Et que finalement, il obtient Spider-Man. Donc Norman se fout bien de lui. Donc ça m'a fait un peu rire. Et c'est surtout, on a la secret origin de la moustache de Norman. De Jameson, pardon.
Oui, qui est, je me rappelle plus de ça, par
Parce qu'en
contre.
fait, il dit que pendant qu'il a fait la guerre, il a arraché le sourcil à quelqu'un avec ses dents et qu'il l'a encore au-dessus de la bouche. C'est la seule scène qui m'a fait un tout petit peu sourire.
Non, mais il y avait quand même des trucs, enfin moi des trucs que j'ai trouvé assez marrants, mais
Bon,
et
deux
puis
gags sur quatre numéros, c'est pas énorme, hein.
bah, écoute, je sais pas, mais moi j'apprécierais bien de voir Brian Reed ne serait-ce qu'une seule fois, quoi, tu vois, sur un arc sur la série Spider-Man que je trouve terriblement morose, enfin voilà, bon, il se passe pas grand-chose. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et j'avais adoré de Brian Reed, j'avais adoré sa mini sur le Captain Marvel de. Enfin le Captain Marvel récent, là, tu vois, le Skrull, quoi, en fait. Durant. Alors je sais pas si tu l'as lu.
Non, je l'ai pas lu.
Qui avait été publié dans un numéro donc de Marvel Universe,
Qui
justement.
faisait
Je crois que
partie
c'était le 13.
de Secret Invasion, The Infiltration, donc ce qui se passait juste avant Secret
Ouais.
Invasion. Mais les
Et
deux
j'avais
derniers numéros
trouvé.
d'ailleurs.
Hormis le fait que bon, je m'attendais à ce que Captain Marvel soit un Skrull depuis super longtemps. Mais je trouve qu'il avait super bien saisi le perso et super bien écrit et ouais,
Moi j'aime
franchement.
bien, parce que j'ai lu pas mal du run qu'il a fait, j'ai pas tout lu encore sur Miss Marvel, mais j'aime plutôt bien ce qu'il a fait du personnage. Bon, les épisodes qu'on a lus récemment là dans le Dark Reign étaient un peu moins bons, mais faut dire que sorti de leur contexte avec des épisodes qui manquent, forcément c'est plus difficile à apprécier. Mais dans l'ensemble, il a bien le perso aussi, donc voilà quoi. C'est pas que j'aime pas le gars, j'ai juste pas aimé ce qu'il a fait là, quoi.
D'accord.
Bon,
Ok.
voilà quoi. Donc bah
Bon.
à voir si ça vous intéresse, quoi.
Voilà, ouais. Si vous voulez, enfin, si vous avez un humour pourri comme le mien, bah, vous aimerez
Non,
passer un petit moment sympa.
c'est pas un humour pourri, ça aurait peut-être pu me faire rire si ça avait été fait différemment. Ou comme je dis, peut-être que j'étais pas du tout dans un bon jour, mais bon.
Bon,
Voilà
alors moi,
quoi.
je l'ai lu à tête reposée, celui-là, hein, je dois dire.
Bah moi aussi, enfin, je pensais avoir la tête reposée en tout cas quand je l'ai lu, donc c'est pour ça que je dis que j'étais peut-être pas dans un bon jour sans m'en rendre compte, mais ça m'étonnerait. Enfin bon. Voilà, bon, je crois que c'est à peu près tout, hein, sur
Ouais, on va pas
bon.
épiloguer non plus.
Bon, voilà. Puis bon, on va continuer, on va rester dans le Dark Reign avec le Dark Reign Saga numéro 2, qui contient Dark Reign et Young Avengers numéro 1 à 5, une mini-série donc en 5. Donc le scénario est de Paul Cornell, les dessins sont de Mark Brooks, l'ancrage de Walden Wong.
Je rigole parce qu'on a l'impression que déjà ça, c'est un problème.
Ah non, non, du tout. Bon, alors déjà, c'est pareil, là aussi. Moi déjà, je suis pas un fan du tout des persos du Young Avengers. Honnêtement, je les connais à peine. À part
Ah
deux ou
merde, alors
trois.
attends. T'as pas lu les premiers épisodes du scénariste de Grey's Anatomy, là, je sais plus comment il s'appelle.
C'est pas une série que je suis, donc.
Bah moi non plus, mais enfin Panini n'avait pas hésité pour dire que c'était lui qui était au scénario de plusieurs
D'accord.
épisodes de Grey's Anatomy. Parce que moi je les avais lus dans Marvel Icons, enfin la première série Young Avengers, et franchement j'avais bien aimé. J'avais vraiment accroché Alan Enberg.
D'accord. Bon, je le connais pas. Non, moi je, enfin voilà, c'est des personnages que je ne connais pas. Enfin, je les ai lus un petit peu dans Civil War. Je les ai croisés aussi bah, pendant Secret Invasion. Voilà, bon, je suis pas plus attaché que ça au perso. Donc déjà une mini-série complètement sur eux. Voilà,
Bah
enfin
pas
pour moi,
complètement finalement.
oui, pas complètement. Enfin, en tout cas, qui portent leur nom. Voilà, j'étais pas déjà plus intéressé que ça. J'ai lu le truc. Bon, bah voilà. À la fin, en tout cas, à la fin de cette mini-série. Je suis pas plus attaché au perso que ça non plus. Donc voilà.
Bah, c'est un petit peu difficile effectivement si t'as pas lu la série la première série la fin de la série principale quoi Young Avengers. D'Alan Enberg, donc comme je disais, qui était vraiment vraiment pas mal et qui avait été publié dans Marvel Icons à l'époque. Et non, franchement, moi j'avais bien aimé l'origine des persos, j'avais trouvé ça intéressant. De mémoire, on a le petit-fils du Captain America noir, Patriot. Il y a Iron Lad qui est une version jeune de Kang, un petit peu comme c'est un petit peu comme dans Superman, comment il s'appelle? Brainiac.
Mais moi j'avais, enfin, ce que j'avais lu, moi, c'était juste le premier épisode, et comme j'avais pas été accroché, j'ai pas été plus loin, quoi.
D'accord.
Donc je connais vaguement les persos, mais je, voilà, je les connais pas plus que ça, quoi.
Bon, on peut juste, enfin, je résume juste pour les auditeurs qui connaîtraient pas forcément les persos. Donc on a Hulkling qui est un espèce de Skrull, il me semble. Asgardien qui est un Asgardien.
Voilà. Tout ça c'est fait.
Giant Girl, la fille de l'homme fourmi, donc
Mais
qu'on
qu'on...
On retrouve dans
Dans Mighty Avengers.
voilà sous le nom de Stature il me semble. Hawking Beard qui au fait n'a pas de lien il me semble avec Œil de Faucon mais en adopte plus ou moins le costume. Elle a aussi une partie du costume de Swordsman.
Dans une version un peu plus sexy, puisque pour fille, hein.
Ouais, et de Oiseau Moqueur aussi, enfin de Mocking Beard, d'où son nom.
Ben, ce serait
Hawking Beard.
peut-être le mélange entre justement les deux amoureux de longtemps, non?
Ouais, sans doute. Et il y a Vision 2, donc comme son nom l'indique, qui est Vision numéro 2. Voilà, et puis il y a Speed aussi, qui court très vite.
Là, en fait, l'histoire de cette mini, c'est qu'il y a une nouvelle équipe de Young Avengers qui apparaît aux yeux des médias, qui arrête, bah, là encore, je crois que c'est des cambrioleurs de banque, hein,
Oui.
mais qui s'en occupent d'une façon assez glauque, puisqu'ils finissent tous par les buter. On n'a pas l'impression qu'il va les tuer, en tout cas au début, puis finalement, il les tue tous. Dans cette équipe, ce sont exactement les mêmes pouvoirs que les Young Avengers, mais chez des personnes différentes. Et qui se font passer comme tels, comme les New Young Avengers aux yeux des médias. Apprenant ça, les Young Avengers décident d'aller les voir en disant: vous n'utilisez pas notre nom, vous allez peut-être venir dans notre équipe, ou alors vous trouvez un autre nom, quoi. Et voilà. Et donc on a, ils essayent de les tester pour voir lesquels sont bien. Et puis ben voilà. Enfin, c'est grosso modo le pitch de l'histoire. Je vais pas aller trop loin pour pas trop spoiler non plus, pour que vous puissiez lire si vous l'avez pas encore lu, sans tout savoir à l'avance. Bon, voilà. Déjà, quand les personnages, on ne s'y intéresse pas forcément, c'est pas... Voilà, je sais pas. Moi, la sensation que j'ai à la fin de cette mini, c'est que ça sert à rien.
Bah, au fait, oui, enfin, j'étais partagé au fait, parce que moi j'aurais nettement préféré avoir, tu vois, un nouveau volume de Young Avengers, enfin, je sais pas, une nouvelle série ou un truc, tu vois, un petit peu plus sur le plus long terme, quoi, tu vois, puisque là, pourquoi faire à chaque fois des nouvelles. Alors, ils ont tout le temps droit à de nouvelles mini-séries comme
Bon, je
Civil War, Young Avengers,
pense que
Dark
c'est que
Reign,
ça doit pas
etc.
vendre assez, quoi. Pas assez
Ouais,
pour
mais
faire un ongoing, en tout cas.
justement, tu vois, c'est pas ce qui passionne le plus. Les mini-séries en général sont super mauvaises, enfin, sont pas terribles en général. Les trucs liés à de gros événements avec des personnages comme ça, c'est pas génial.
Ça permet pour les fans d'avoir leur dose de personnages qu'ils adorent, et puis sans forcément faire une série qui se plombe. Qui va les plomber parce qu'elle va pas marcher, quoi, qu'ils seront obligés d'arrêter et que tout le monde va crier au scandale parce qu'elle aura pas été jusqu'au bout, ou en tout cas qu'il y aura des intrigues encore en suspens. Bon, c'est un moyen comme un autre, voilà.
Enfin, moi, en ce qui me concerne, je pense vraiment que les Young Avengers ont le potentiel, par exemple, comme les ont du potentiel comme les Secret Warriors, par exemple. Mais bon, enfin, et au début, tu vois, quand j'ai abordé cette mini-série, déjà, j'ai cru que c'était uniquement sur les nouveaux, enfin la nouvelle équipe.
Ah bah oui, c'est ce qui fait peur à la fin du premier épisode.
Et au fait, non, puisqu'on revoit les Young Avengers d'origine. Donc au début, je me suis demandé quelle était l'utilité déjà qu'on les voit, enfin. De nous créer une nouvelle équipe si les anciens on les voit si peu. Et au fait c'est un petit peu
Bah, c'est pour nous le faire la sauce Dark Reign, quoi, c'est-à-dire avec une équipe de Dark Avengers. Ça pourrait très bien s'appeler Dark Young Avengers, hein, pour la
voilà
nouvelle
ouais
équipe, hein.
complètement complètement. Alors ils prennent le nom de Young Masters en référence au Masters of Evil, l'ancienne équipe rivale des
Des
Avengers
Avengers.
à l'époque. Mais non, enfin, y a quelques moments assez sympas, comme le moment où justement il y a la rencontre entre les Young et les nouveaux Young Avengers, puisqu'ils s'appellent les New Young Avengers, ça devient compliqué. Ça m'a rappelé au fait un petit peu l'époque des Thunderbolts, lorsque ils avaient pris la place des Vengeurs tout au début de leur série et que les Vengeurs revenaient et s'apercevaient que ils avaient été remplacés par une version inconnue, tu vois, de super-héros, etc. Bon, ça me faisait surtout penser à ça, mais c'est clair que c'est clairement en fait une version dark des Young Avengers, quoi, tout simplement.
Je sais pas, moi il y a un teenage angst qui est assez présent dans la série, enfin une espèce de mal-être adolescent qu'il essaye de nous faire passer tout au long de la série et je sais pas, je suis peut-être trop vieux pour ça maintenant.
Bah voilà, ouais, j'allais dire, c'est peut-être plus trop notre âge, on est peut-être plus la cible, on est un petit peu moins réceptif à ça. Bon, la mini en elle-même, elle se laisse lire, c'est pas mauvais,
Non, c'est
quoi,
pas
mais...
mauvais, hein, du tout, c'est pas du tout mauvais, c'est juste que bah. Quand on s'attache déjà pas au perso, c'est difficile de rentrer vraiment dedans, quoi, je pense.
Enfin, moi, c'est vraiment le côté, voilà, je sais que c'est une mini. Donc je m'y attache beaucoup moins que si on me disait voilà c'est un nouvel ongoing, il va se passer des choses. Là déjà la promesse elle est vachement réduite à la base. Puis je suis pas tellement fan du scénario non plus parce que nous faire une version dark de cette équipe, j'imagine que de toute façon l'équipe en elle-même on la voit tellement peu, les Young Avengers on les voit tellement peu dans l'univers Marvel actuel que j'imagine que cette nouvelle équipe de toute façon va vite disparaître.
Bah, on a deux personnages normalement si je me trompe pas qui viennent de l'ancienne série Micronauts.
Oula, t'allais chercher loin là, parce
Ouais,
que...
si si, il y a une référence d'ailleurs de Norman à ça dedans qui viennent du Microvers.
Ah oui, t'as raison.
Et
Ouais.
donc je crois que c'est le. Alors c'est dans cette nouvelle équipe justement, il y a l'espèce de truc qui ressemble à Hulkling, là, enfin qui est l'équivalent de Hulkling.
Bah,
J'ai
t'as
absolument pas le
Melter,
nom.
t'as Enchantress, t'as
Donc c'est pas eux,
l'Executioner,
c'est pas lui non plus.
Big Zero, c'est la nana,
Non, non.
Coat of Arms.
Oui, elle. Et puis l'autre là.
Et Geddes.
Ouais, voilà.
Le rôle robot, quoi, en fait.
Voilà.
Espèce
Si je
de...
crois que ce sont ces deux-là qui viennent du micro-vert.
D'accord. Bon, enfin, bon. Disons que, voilà, c'est... Si on est fan de Young Avengers, voilà, c'est vraiment réservé uniquement pour
Alors.
les fans de Young Avengers, quoi, clairement.
Il y a quand même des choses bien, je trouve. Genre, je sais pas si c'est au niveau de l'ancrage ou si c'est au niveau de la colorisation que ça s'est passé. Il y a une manière de faire qui est assez sympa pour mettre en lumière en fait. Les zones qui sont proches de la lumière ne sont pas ancrées, elles sont ancrées en négatif, elles sont ancrées avec un trait blanc.
Ouais.
Et ça donne un effet qui est vraiment assez agréable à l'œil, je trouve.
Ben, on a l'impression d'au fait de regarder des captures de dessins animés.
Ouais, voilà, ça donne un peu cet effet-là, ouais. Et
À
c'est
la
assez marrant
Dorothée
parce que...
Magazine, pour ceux qui ont connu il y a longtemps, les épisodes de Dragon Ball qui étaient copiés du dessin animé directement sur le papier, enfin c'était assez
Pose,
fantasque.
imprime écran. Pose, imprime écran.
Ouais, exactement, ouais. À l'époque, ils savaient faire
C'était
ça,
comme ça,
ils
ouais.
étaient très forts, ces gens-là.
Là,
Mais quoi qu'il
je
en
sais pas,
soit.
j'ai trouvé que ça donnait un joli style, en tout cas, cette espèce d'ancrage en négatif, en fait, par rapport à d'habitude, quoi, pour souligner les effets de lumière, j'ai trouvé ça sympa. Je sais pas, là, ça m'a sauté vraiment particulièrement aux yeux, et je trouvais ça sympa, peut-être parce que je m'ennuyais un peu, donc j'ai plus prêté attention au dessin, je sais pas.
Non, moi aussi, ça m'a pas déplu, et puis mais ça m'a fait penser à certains épisodes de l'initiative. Alors je me demande si on n'a pas déjà eu cet artiste sur Avengers Initiative par moment.
Ah, ça je sais pas par contre.
Bon.
Un autre truc aussi, par contre là j'ai trouvé ça un petit peu trop, c'est le Yes We Can de Patriot, quoi. Ça m'a.
Oh
Voilà.
putain, je l'ai même pas remarqué, sans doute parce que c'est la lecture
Oh,
française.
peut-être, ouais.
En plus, je pensais à cette blague depuis une semaine, avant même de lire le truc, je me disais, putain, ils ont jamais fait le Yes We Can.
Et bah là, c'est justement fait par Patriot en plus qui est black. Je sais pas, j'ai
Ouais.
trouvé ça trop. La façon dont c'était amené, je trouvais ça trop. Bon, après,
Ouais.
c'est un
Et puis
petit
alors,
truc.
par contre, est-ce que t'as aimé la fin de cette mini-série? La dernière page?
Tu peux me rappeler vite fait à quoi ça ressemble parce
Bah,
que
en
je
gros,
ah, ça sert à rien.
t'as la nana qui rêve, qui fait un espèce de petit rêve avec Norman Osborn, enfin avec le
Ouais,
groupe.
façon Super NES.
Ouais.
Ouais, bon, bah ouais, non. Enfin, façon version plutôt super difforme en fait.
Ouais, non,
Plus que
enfin
Super
bon,
NES.
moi, je me suis dit, putain, ça c'est. Qu'est-ce que c'est que cette fin, quoi?
Ouais, mais en fait, moi, c'est ça, c'est l'ensemble de la mini. T'as l'impression que bah finalement, ça n'aura aucune conséquence et ça n'aura servi à rien. Et c'est un peu ça qui me gêne au final.
C'est ce que je dis, c'est clairement pour les fans de Young Avengers, à mon avis. Donc, si vous n'avez pas lu, ne
Donc, je suis pas
serait-ce
la
que
cible.
la...
J'étais
Quoi?
pas la cible du truc, donc.
Ah ouais, non, mais c'est clair, parce que si même on n'a pas lu la série Young Avengers de base, à mon avis, on va pas s'intéresser à ça. Hein.
Mais il y a quand même des moments sympas, hein, le moment où ils les testent tous et tout, ça c'est plutôt agréable, ça passe plutôt bien et tout. C'est
Non,
juste
mais
les bastons entre les deux équipes qui sont peut-être un peu lourdes, quoi.
C'est pas mauvais, mais c'est clairement réservé à des gens qui apprécient déjà cette équipe. On peut pas commencer Young Avengers avec ça, je pense.
Non, ah non, non, c'est clair.
Voilà.
Ok, bon, allez, on va passer cette fois-ci aux sorties d'essai kiosque. On va commencer par le Superman Batman hors série numéro 9. Alors, trois épisodes spéciaux dans ce numéro hors série, trois épisodes spéciaux de JSA. Le premier, c'est donc JSA Kingdom Come spécial Superman, tout fait par Alex Ross. Bon, alors, franchement, je trouve cet épisode vraiment chiant, honnêtement.
Ouais, moi j'ai pas trouvé terrible terrible, juste le seul passage dont je me souviens d'ailleurs réellement, c'était l'espèce de backup où on voyait le décès de Lois Lane. Ce qui s'est passé au fait dans le monde du
Bah
Superman de la Terre 22.
dans Kingdom Come, tout simplement.
Voilà, ouais.
Voilà, on revoit le passage avec le Joker, le gaz, tout ça. Bon, il y a beaucoup d'incrustes des images de Kingdom Come de la série d'Alex Ross là, de 1996, je crois. Bon, voilà, ça parle beaucoup. Superman s'interroge sur ce qu'il doit faire, pourquoi il est là. Bon, ce qui s'est passé sur sa Terre, une petite discussion avec Lois. Bon, je sais pas, c'est pas un épisode super, super intéressant, quoi.
Voilà, en gros c'est ça quoi. C'est effectivement, moi je me suis dit bon, ça commence bien.
C'est très statique. Alors, je sais pas si par contre en français on avait les pages qui expliquent comment Alex Ross travaille.
Ah du tout. Non, non.
D'accord, parce qu'en VO on avait ça au moins, parce que déjà l'épisode n'est pas très gros par rapport à d'autres, par rapport par exemple au spécial Magog ou au spécial de Kingdom. Et il était à la fin, il y avait tout un moment sur comment Alex Ross travaille. En fait, il expliquait de quoi il part, il y avait des photos justement des personnes qu'il reproduit pour faire le rôle de Norman Mackay ou le rôle de Superman, qui sont ses amis à lui en vrai, et puis pour Norman Mackay, c'est son père. Et on voit la photo et on voit le résultat, et c'est bluffant comme résultat, quoi. C'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment la tête qu'ils ont en vrai, quoi.
Ouais.
Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, le pote d'Alex Ross, dont il s'est servi de base pour faire le Superman, peut pas trop se balader dans les rues sans être « C'est Superman !» C'est vraiment ressemblant à ce point-là, quoi. C'est vraiment impressionnant. Bon, voilà. Un épisode qui est pas. Moi, je vais pas mat. Enfin, je pense pas qu'on ait beaucoup à s'attarder là-dessus parce que bon, y a pas grand-chose à en dire, quoi.
Mais d'une manière générale, le hors-série en français, en tout cas, est pas super épais, quoi. Ils auraient pu nous mettre ces quelques pages. Je sais pas combien ça faisait de pages.
80 à peu près, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Trois épisodes spéciaux.
Parce que là, au fait, le truc, c'est que pour 5,40€, on a les trois histoires, les trois histoires, quoi, les trois histoires des hors-série, mais c'est tout, grosso modo, il
Oui,
me
c'est
semble.
tout, c'est tout.
Donc
Ok.
bon, ça fait un peu cher. Enfin
Bah,
bon.
faut aimer la JSC, quoi. Faut aimer la
Bah tout,
JSC.
tout, de toute façon quand on ouais et puis quand on a lu toute la saga, bah faut pas louper cette partie non plus, puisqu'il y a... après ça devient un petit peu intéressant quand même.
Ouais, bah justement, on va passer à l'épisode d'après. Donc, JSC, Kingdom Come spécial, toujours. Magog, cette fois-ci. Scénario de Peter Tomasi, dessin de Fernando Pasarin et ancrage de Migré. Bon, là déjà, c'est un peu plus intéressant, quand même.
Oui, complètement.
On a la véritable origine complète du perso, parce qu'on en avait quelques bouts par-ci par-là dans l'arc, dans les pages de la JSC régulière, mais bon, là on a une origine totale du perso qui repart en fait sauver ce qui reste de son équipe, parce qu'il apprend qu'ils sont, en disons, dans le pétrin, quoi, pour être gentil.
Oui.
Et
Dans la
voilà.
mouise.
Ouais, voilà. Puis il décide d'abandonner un petit peu les gens avec qui il était, qui suivaient Gog, pour aller sauver son équipe. J'ai trouvé déjà honnêtement que c'était hyper violent pour du mainstream. Ça
Ah oui.
gicle de partout, quoi. C'est impressionnant.
Oui. Puis il n'y a pas de... Je regarde. Ah si, pour lecteur averti, mais ça, ils le mettent maintenant quasiment tout le temps, donc il n'y a plus de distinction tellement.
Mais j'ai pas vu sur la cover américaine non plus comme quoi c'était à pas mettre entre toutes les mains. J'ai trouvé ça assez violent. Bon, ça m'a pas gêné, mais disons que pour du mainstream en tout cas, c'est super violent, quoi.
Moi, ça m'a un peu gêné quand même. Je trouvais ça limite malsain parce que le mec, c'est un espèce de gros héros américain, Magog. C'est vraiment le...
Bah, petit-fils de Roosevelt.
le stéréotype même du super soldat américain, quoi.
Ah
C'est-à-dire
oui,
que bon,
complètement.
il épouse l'idéologie américaine totalement. Il est l'incarnation de l'idéologie américaine. Et
Ça pourrait être un Captain America moderne, ouais.
voilà. Et puis là, on le voit vraiment dans toute sa décadence, quoi. C'est-à-dire que il bute à tour de bras tous les gens qui ont fait du mal à ses amis.
Bah, ses frères
Voilà.
d'armes, quoi, c'est sa nouvelle famille, quoi, c'est clair.
Voilà, et non, c'était super violent en plus, avec genre il les découpe en morceaux, il les laisse encore vivants, dans un espèce de charnier là, en leur disant débrouillez-vous, les mecs fait bon ouais on va se faire manger par des animaux, il fait ouais c'est pas mon problème.
Ah, ils ont dit ça parce que lui il dit plutôt en VO en tout cas c'est quelque chose comme tant mieux je crois. Quelque chose comme ça. Ou genre
Ouais
où
bah
je compte
c'est
là-dessus ou un truc comme ça.
Oui, voilà, c'est même plus ça d'ailleurs aussi en VF, parce que bon, je me rappelais pas exactement des détails, mais ouais, c'est tout à fait ça, et c'est pire que Punisher, quoi. C'est
Ah oui, bah oui.
enfin, c'est tout aussi violent. Et non, non, franchement, et puis même le personnage devient super antipathique, quoi. Quand tu vois ça, tu te dis, attends, mais c'est quoi ce héros?
Bah oui, c'est pas vraiment un héros, quoi.
Non, mais c'est étonnant d'avoir un espèce de pseudo Punisher dans la JSA. Moi, je sais pas, ça m'a un peu choqué.
Mais là, justement, maintenant, on commence à se rapprocher du Magog qu'on avait dans Kingdom Come, qui tue le Joker et voilà, quoi. Et qui n'a pas forcément beaucoup de remords. Un petit peu vers la fin, mais c'est
C'est
tout,
ça
quoi.
qui m'a choqué, on y viendra tout à l'heure sans doute, puisque c'est à la fin de l'arc, mais je trouve que le personnage change du tout au tout après.
Mais encore une fois, avec cet épisode-là, on a quand même du mal à voir où on va. Faut être honnête.
Là, c'était sur juste un. C'est juste un. En fait, c'est deux épisodes vraiment backup, quoi. Clairement, y a l'histoire principale n'avance pas. C'est vraiment juste pour nous montrer les origines de Magog, c'est tout.
Oui, c'est ça, oui, c'est clair.
Mais je trouve qu'il y a un grand fossé entre le Magog écrit par Tomasi et le Magog écrit par Jones.
Ouais, il y a une grosse différence, ouais, c'est vrai.
Celui écrit par Tomasi est ultra violent, il a aucune concession, et celui écrit par Jones, on a l'impression limite à la fin, oh bah merde, j'ai fait du mal à je sais pas qui, oh bah je regrette, alors que bon, 5 minutes avant, il vient de trucider 50 000 mecs, quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une assez grosse différence entre les deux façons d'écrire le personnage et de l'avoir en tout cas en main. Je sais pas laquelle je préfère. Je préfère peut-être la version sans concession de Tomasi quand même.
Après, bon, tu sais, on pourrait même y voir une explication d'ordre scénaristique, par exemple. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais au bout d'un moment, Magog est puni par Gog, quoi. Donc il perd, enfin, il semble qu'il perd une partie de ses pouvoirs ou je sais pas quoi. Et peut-être que ça explique son changement de comportement ensuite.
On y reviendra tout à l'heure quand on abordera les épisodes de la JSA de toute façon. On avait à la fin de ce spécial, on avait l'origine de Starman.
Qui est là aussi, ouais.
Ouais, écrite par Jones, par Jeff Jones justement, et donc dessinée ancrée par Scott Collins. Bon bah là c'est juste ses origines, quoi. Plus comment il. Enfin ce qu'il devient en fait après être guéri par Gog de son état mental défaillant. Et donc on voit qu'il prépare quelque chose, il se fait embaucher comme fossoyeur.
Ça m'a fait rire quand même, ce petit épisode.
Parce qu'il y a un plan qu'il devait suivre. On voit d'ailleurs les trois Brainiacs, machin. Bon, c'est sympathique et on se demande qu'est-ce qui va se passer ensuite, quoi. Enfin, bon, en tout cas, ça m'a intéressé. Ce passage-là, en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Qu'est-ce que c'est que ce plan qui doit tout sauver je sais pas. Surtout en étant fossoyeur.
C'est clair.
Qui
Non mais moi
doit-il
aussi.
aller déterrer? C'est surtout ça qui m'inquiète.
Non, puis j'ai trouvé ça vraiment. Enfin, c'est très drôle, quoi. En quelques pages, quand il arrive et qu'il dit au mec, j'ai besoin de vous et d'une pelle, tu te dis, oula, de quoi il parle? Il est complètement fou. Non, franchement, ce personnage est très drôle, mais
J'y pense maintenant, je me demande d'ailleurs si c'est pas lui qui déterrerait en fait le cadavre de Connor et qui le mettrait dans la forteresse de la solitude. Ou
Donc de
peut-être
Connor
récupérer.
du clone de.
Ouais, ou peut-être qui amène à sa recréation, enfin en tout cas à sa résurrection dans Final Crisis, Legion of Reworlds. Peut-être. Ou alors c'est lui qui récupère le matériel génétique, je sais pas.
Ah oui, c'est vrai,
Alors est-ce
oui,
que c'est ça,
d'accord.
est-ce que c'est autre chose, je sais pas. Mais là, je viens de penser à ça, peut-être
Bah,
que c'est ça.
surtout que ce backup a au moins le mérite de rappeler que Starman vient de la Légion.
Oui.
Puisqu'on moi je enfin je l'avais même oublié, quoi, que Starman venait était un ancien légionnaire, en fait, à la base. Donc voilà, c'est toujours utile d'avoir un petit backup qui resitue le perso.
Le dernier épisode spécial, c'est le JSA Kingdom Come spécial, The Kingdom, scénarisé par Geoff Jones, dessiné par Fernando Pasarin, ancré par Mick Gray, Jack Purcell, Norm Rapmund et Fernando Pasarin. Et donc là, c'est quand même des trois le plus intéressant, en tout cas celui qui fait le plus avancer l'histoire, je
Ouais,
trouve.
puis c'est normal puisque c'est Jones qui est de retour au scénario et qui fait avancer un petit peu son histoire. En fait, c'est quasiment un épisode de la JSA, quoi. Ça aurait pu
Ouais,
être un
voilà,
épisode de
un
la série.
épisode double en fait. Bon, on prend un peu notre temps, mais puis bon, le plan de GOG commence enfin à apparaître, quoi. Voilà.
Enfin, sa véritable personnalité
Ouais.
plutôt apparaît, quoi, au grand jour à la fin.
En tout cas, les rappels à Kingdom Come sont de plus en plus présents avec celui-ci, hein. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, bon, on nous montrait Magog, on nous montrait GOG, on nous montrait le Superman de Kingdom Come. On se disait, bon, en tout cas en lisant la série principale, on se disait, bon ouais, Kingdom Come, d'accord, mais quels sont les liens, quoi? Et là, on les voit apparaître, vraiment. Cette fameuse guerre entre les deux équipes, qui risque de mener à la guerre entre les super-héros, comme il y a eu dans Kingdom Come, le fait que Magog tue, enfin bon voilà, là on est vraiment, vraiment dans le rappel de cette histoire. Beaucoup plus qu'avant, en tout cas, je trouve.
Ouais, effectivement, et on comprend aussi pourquoi Superman déteste autant GOG, au fait.
Bah oui, forcément, puisque
Non,
ça
mais
lui rappelle.
j'allais dire, est-ce qu'on spoile la fin un petit peu ou
Bah de toute façon, oui, il va y
faut en
avoir un peu de
parler
spoiler,
puisque
puisque de toute façon on va attaquer
enfin,
par ensuite
avec la suite.
la JSC, donc voilà, on va parler de la fin.
En gros, ce qui est énorme, c'est qu'à la fin, GOG leur dit carrément à tous ceux, donc au fait qu'il a aidé, à tous les héros de la JSA à qui il a porté secours, tout simplement agenouillez-vous devant moi, vénérez-moi, et puis voilà quoi, en remerciement. Et je disais, je comprends pourquoi Superman ne supporte pas ça, puisque Zod demandait toujours qu'on s'agenouille devant lui, donc
Ah oui,
forcément,
joli.
avec GOG, ça peut pas le faire. Hein. Il a un petit côté Zod aussi.
Joli, j'avais pas vu ça, tiens, tu vois.
Non, mais enfin moi ça m'a fait marrer ce côté-là quoi. Je me suis dit ah bah oui forcément ça doit pas lui plaire du tout à Superman d'entendre un truc pareil. Mais non mais en fait c'est un gros mégalo quoi.
Ouais, bien sûr.
Voilà, le
Même si
mec.
de toute façon c'était prévisible depuis le départ, quoi. On s'attendait bien à ce qu'il y ait un
C'est ce que
retour de
j'ai trouvé un
bâton.
peu dommage, c'est que finalement tant de temps pour quelque chose qu'on voyait venir quand même. De toute façon on se doutait bien que GOG au final c'était un pourri.
Bien sûr, bah de toute façon, ça aurait été. Enfin, ça paraissait improbable qu'après tout ce qu'il ait fait, changer à tel point autant de personnages de la JSA, il n'y ait pas un prix à payer, quoi. Et sauver tous les problèmes de l'Afrique. Enfin, je veux dire, c'est. On savait bien qu'il y aurait quelque chose qui allait déraper. On attendait juste le moment du camp. Et le problème, c'est que ce camp a mis très longtemps à venir.
Il a mis très longtemps à venir et puis je sais pas, il manque peut-être un petit quelque chose, tu vois. Enfin, voilà, on s'attendait tellement à ça que de toute façon, au final, on est un peu déçu après tant
Bah
d'attentes.
ça fait plus d'un an quand même que cette histoire est là, puisque ça a commencé, je crois, à l'épisode 9 ou 10 de la JSA, enfin, de cette série Justice Society of America. Donc là, les deux derniers épisodes qu'il y a dans DC Universe, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont le 21 et 22, sont la fin de l'histoire. Ça fait plus d'un an, quoi. Parce qu'il y avait eu des retards aussi, je crois, aux États-Unis. Donc
Ouais.
voilà, presque un an et demi pour ça, alors qu'on le voyait presque venir depuis le début. Bon, est-ce pas un peu trop long quand même?
Et Panini qualifie ça, au fait, cette saga du meilleur taf de Jones sur la série, sur JIC. Ouais, bof, enfin, tu vois, au fait,
Je suis pas forcément d'accord non plus.
la saga est sympa, mais justement, la fin est peut-être ce qu'il y a de plus décevant, hein, de toute façon. Pour un truc qui a duré aussi longtemps, je dirais que la conclusion est bien vite expédiée.
Voilà, ouais. De toute façon, on va en parler tout à l'heure. Il y a quand même des trucs, puisque bon, GOG se fait passer et se prend pour un dieu. De toute façon, il est un dieu du troisième âge, mais voilà. Il y a aussi pas mal de rappels à ce côté dieu, notamment le moment où il change le cours de la rivière, qui est ni plus ni moins qu'un rappel aux travaux d'Hercule, qui est un demi-dieu. Donc, enfin, y a pas mal de petites symboliques comme ça, constamment, et c'est peut-être ça aussi qui je trouve, est un petit peu lourdeau à la fin. Disons qu'à force, ça devient presque forcé, je trouve.
Enfin, voilà, moi ce qui m'a déçu, c'est je me suis dit bon bah tout ça pour ça quoi, tout ça pour un truc évident finalement. Encore que qu'on nous ait appris que Gog était effectivement comme ça, mais en même temps il était manipulé par quelqu'un, ou qu'il s'était passé quelque chose qui faisait qu'il agissait comme ça et pas autrement. Enfin, je sais pas, tu vois, qu'il y ait quelque chose d'autre derrière. Non, là c'est vraiment, en fait, c'est un fou, quoi. C'est un mégalo, tout simplement.
Il y a un dieu, quoi, qui a
Ouais.
besoin de fidèles pour vivre, pour survivre, tout simplement, pour avoir du pouvoir. Parce que les dieux n'existent que si on croit en eux. Enfin, c'est... Voilà, donc...
Enfin, ce qui m'a plus déçu vient après, de toute façon. Donc, bon, bah, on en parle dans quelques instants.
De toute façon, on va attaquer tout de suite. On va passer donc maintenant à l'autre mag qui contient cette Justice Society. C'est le DC Universe numéro 55. Premier épisode, c'est le Justice League of America, volume 2, numéro 30. Scénario de Dwayne McDuffie, dessin de José Luis et ancrage de JP Mayer. Alors, bon, on a sauté le numéro 29, enfin en tout cas Panini l'a zappé, puisque c'était un numéro spécial Faces of Evil, donc qui se passait juste après Final Crisis, et qui ne servait absolument à rien, et que c'était pas du tout la suite de l'histoire, donc c'est pour ça qu'il manque un épisode entre il y a 2 mois et ce mois-ci.
Ah d'accord, parce que moi j'avais l'impression d'avoir loupé un truc. Alors je sais pas si c'est dû à cet épisode.
Ah non, en tout cas moi je l'ai zappé aussi, j'ai regardé vite fait ce que c'était, j'ai fait bon, pas besoin de le lire. J'ai eu aussi cette impression qu'il manquait quelque chose, c'est pour ça, puis je me suis dit bon, et numéro 30, mais pourtant je crois que c'était numéro 28, et j'ai regardé 29 et non il sert à rien, donc enfin, en tout
Parce que
cas.
par exemple l'annonce du retour du mec, là, l'espèce d'ombre, c'était annoncé à la fin de l'autre?
Bah honnêtement j'en ai plus aucun souvenir, mais justement, c'est bien que tu parles de ça, je trouve que cette version, cette nouvelle version du DC Universe tous les 2 mois, moi personnellement ça me pose un souci. Lire un truc tous les 2 mois ça me gêne quoi.
Ah,
Surtout
moi
quand il y a des
aussi, c'est
suites.
trop long.
C'est trop long et du coup on a le temps de complètement oublier et de plus savoir ce qui se passait quoi. Et devoir aller regarder l'ancien mag à chaque fois pour se rappeler du truc. Voilà, je trouve ça un petit peu fastidieux.
Ouais, non, clairement, c'est pas vrai. C'est vraiment, tout est fait pour nous dégoûter du ou nous désintéresser de la lecture de DC Universe, quoi, ce qui est bien dommage, puisque ça contient nombre de bonnes séries. Enfin bon.
En tout cas, pas ce JLA, hein.
Oh non, non, oui, non, 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 pas ce JLA qui est toujours de Dwayne McDuffie, qui est
Donc,
donc plus inspiré nettement sur le dessin animé
bah là, il
que sur
finit
sa série.
son intrigue avec les personnages Milestone, quoi, les personnages de son univers. Et bon, bah franchement, c'est un épisode de baston.
Bah
Bon,
bouche-trou, quoi.
ouais, il y a quelques trucs quand même qui sortent du lot et qu'on verra, je pense, par la suite avoir des répercussions, notamment le fait que Red Arrow et Hawkgirl sont vachement en froid maintenant. Puisqu'on
Ouais.
n'arrête pas de la renvoyer chier à chaque fois qu'elle s'approche de lui, qu'elle veut l'aider en lui disant mais
Ouais.
vas-y, retourne voir Carter Hall et puis voilà, dégage.
Ouais, j'ai trouvé ça vraiment.
Il y a le retour de la fille de Dr. Light qui récupère ses pouvoirs.
Ouais.
Et puis Dwayne McDuffie nous met en place une intrigue pour le futur univers Milestone. Du coup, comme je disais la dernière fois, pour le moment on n'a eu aucune annonce, ça fait presque un an, il y a presque un an de décalage à peu près avec la parution américaine. Et justement, quelques jours après, j'ai vu qu'il y avait la sortie bientôt de Milestone Fever, je crois que ça s'appelle. Un numéro spécial avec les personnages de Milestone qui a dû sortir ou qui va sortir le mois prochain aux États-Unis. Donc voilà, je pense qu'il met en place son intrigue avec le gars qui a fait travailler, je crois que c'est Icon hein, qui s'appelle le gars
Oui,
principal.
tout à fait. Ouais.
Voilà, qui le tient un petit peu. Avec du chantage.
Ou enfin, bon, voilà. Moi, honnêtement, je me suis vraiment fait chier à la lecture de cet épisode, et ça doit être l'épisode le plus chiant du mag.
Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, c'est vrai que... Bon. Voilà, c'est pas un grand grand épisode. J'ai hâte qu'on passe à autre chose, parce que, bah, voilà, les personnages Milestone en France, déjà, je me demande un peu l'intérêt de nous publier ces épisodes-là, surtout quand on voit comment ils sélectionnent chez Panini. En France, qui connaît les personnages Milestone, quoi? Voilà. Donc je pense qu'on aurait pu zapper ça, ça aurait pas été un mal. Je suis pas partisan du fait de zapper des épisodes et de laisser des inédits, mais quand on nous zappe un épisode 29 qui ne servait à rien, ces deux-là servent aussi à rien, honnêtement. À part annoncer le retour de la fille de Dr. Light, peut-être, et encore.
Clairement, ouais, non, non, mais moi j'y vois pas l'intérêt, j'avoue que voilà, j'ai lu ça sans vraiment y croire, et enfin sans vraiment y croire, sans voilà, sans rentrer dedans. J'ai essayé de quand même de le lire jusqu'au bout, quoi, mais bon, à la fin il y avait un petit. Alors, je sais pas s'il y a ça dans la version bah si, je pense, dans la version originale doit y avoir la petite histoire avec le gardien là, et le livre noir, non?
Oui. Qui fait partie de la préparation à Blackest Night.
Ouais. Bon, petite préparation parce que moi je vois pas trop le rapport à
Mais il
part
y
que
en
le
avait en
livre est
fait dans,
noir.
dans toutes les séries, il y avait un petit truc comme ça ce mois-ci. Alors je ne sais plus, c'était Origin Anomen, ça s'appelait. Mais
D'accord.
dans toutes les séries de, du même mois, il y avait un petit backup comme ça sur Scar qui raconte quelques trucs et qui prépare à Blackest Night. Alors
Ok.
certains sont plus intéressants que d'autres. Bon.
Bon, ils ont choisi de publier celui-là uniquement, alors je sais pas pourquoi ce choix, qu'est-ce qu'il y avait d'important à voir dedans.
Honnêtement,
Parce
je me
que.
rappelle même plus, c'est
Non,
pour
moi non
dire.
plus. À part que effectivement le livre était noir et je me dis tiens, c'est peut-être une référence à Blackest Night. Voilà.
C'est le cas. Mais je me rappelle même plus de quoi ça parle, honnêtement, hein, du tout. Donc voilà. Mais ça devait pas être un très très intéressant si je me rappelle pas, tu vois. Mais bon.
Bon.
Ok, on va passer à l'épisode d'après qui est quand même plus intéressant. Le Green Lantern volume 4, numéro 37, scénario de Jeff Jones, dessin d'Ivan Reis, ancrage de Claire Albert et Julie Ferreira. Donc la suite de Rage of the Red Lanterns. Et là, bah ça dépote, quoi.
Ouais non, au fait. Oui non, parce que au fait, je commence à me dire c'est un peu toujours la même chose là pour le moment. C'est-à-dire que je m'attendais à la à ce qui se passe à la fin. Je me suis dit allez, à tous les coups, ils vont nous faire le coup de voilà, enfin tu vois ce que je veux dire.
Oui, on va pas le spoiler cette fois-ci.
Non non, on va pas le spoiler, mais bon en tout cas, moi je m'attendais au final donc si vous aussi auditeurs vous vous y attendiez, eh bien dites-le.
Mais bon, il y a quand même la prophétie que Hal va de nouveau s'élever contre les gardiens.
Ouais, mais d'un autre côté, enfin, on sait pas. Alors,
Alors,
que penser?
est-ce un
Est-ce que.
mensonge ou pas? On verra bien.
Moi, franchement, j'en sais rien, mais je pense que c'est du mytho, ouais.
Bah oui, ils essayent toujours de. Bah, ce sont quand même des sortes de démons, donc.
Non, mais moi, je pense que c'est du mytho. Il doit y avoir une petite part de vérité, tu vois, genre sur une scène, un moment dans Blackest Night, sans doute, où tu te dis, tiens, c'est ça dont il parlait, ça y est, il va repéter un plomb, et puis au fait, non. Voilà. C'est ce que je pense. Bon, enfin bon, j'en sais rien, j'ai pas lu Blackest Night. Donc voilà. Donc ne me dis rien.
Ah ouais, je ne dirai rien, moi. Je ne
Voilà.
dirai rien. J'ai la bouche cousue. Il y a donc toute cette bataille sur, qui se passe donc sur Izmult,
Ouais.
avec donc les Red Lanterns qui avaient crucifié Sinestro.
Ouais.
Hal qui vient le sauver pour le tuer lui-même en fait, tout simplement. Et les Blue Lanterns qui poursuivent en disant non, non, il fait partie du plan. Pitié, ne le tue pas.
Voilà.
Moi, je sais pas, moi je l'épisode est bien, il se lit peut-être un peu vite, et c'est vrai que.
Ouais, enfin voilà, c'est-à-dire que finalement il se passe pas grand-chose. Et puis, bah je sais pas.
On reste un
Enfin
peu sur notre
bon.
faim, c'est certain, surtout quand c'est tous les 2 mois, quoi, ça revient au même problème, hein.
Ouais, non, puis là c'était un petit peu facile. Je me suis dit, allez, bon, ça va partir comme ça. Effectivement, ça part exactement dans le sens où. Enfin, je voyais venir, quoi. Je voyais trop les trucs venir à force.
Mais comment Hal va s'en sortir?
Ah ça oui, ça par contre, voilà quoi, à voir, ça je ne sais pas.
Réponse au prochain épisode.
Y a aussi un décès dans cet épisode.
Ah oui,
Oui. Oui, bah on va pas le dire, mais bon, il y a un décès, il y a un
Oui,
mort.
j'ai eu un petit blanc en l'espace d'un moment, mais oui, c'est bon.
Voilà.
Voilà. Non, mais bon, un épisode qui reste quand même, bah, de toute façon, comparé à Justice League,
Ah
bon,
oui, non mais,
c'est difficile de
bien
faire
sûr,
moins
c'est
bien,
le jour et
mais.
la nuit noire.
C'est sûr que c'est un peu en dessous de ce qu'on a l'habitude pour Green Lantern, mais c'est pareil, c'est une série qui se lit dans la longueur, donc. Puis une fois tous les 2 mois, ça devient difficile, quoi. Donc, bah, dans 2 mois, on aura la suite. Dommage d'attendre aussi longtemps, quoi.
Ouais, ça brise un peu le rythme. Alors je sais pas s'ils vont mettre 2 épisodes le mois prochain. Je crois pas. Non,
Non,
je crois pas. Je crois que le
je
pire,
crois
attends,
que c'est 2 épisodes en juillet et 3 en septembre, je crois.
Ouais, non, mais parce que en mai, on va avoir 2 épisodes de GLA. Putain. Il me
Bah on verra
semble.
bien, ce sera un nouvel arc, donc on verra bien.
C'est vrai, mais bon.
Allez, on passe à la suite, c'est Justice Society of America, volume 3, 21 et 22. Scénario de Jeff Jones et Alex Ross. Dessin de Dale Eaglesham, ancrage de Nathan Mason Gill avec Jerry Ordway et aussi Bob Wiasek. Bon. Alors, déjà, c'est vrai que moi, il y a aussi un souci qui, par rapport à la JSA, on en parlait tout à l'heure dans le Superman Batman hors série. On n'a pas eu de JSA depuis le mois de décembre,
Ouais,
je crois.
enfin,
Ou
sans compter
novembre.
le hors-série, quoi.
Oui, mais non, avec le hors-série ce mois-ci, on se retrouve quand même avec 5 épisodes de JSA d'un coup, alors qu'on n'en a pas eu depuis 3-4 mois. C'est d'un seul coup, c'est boum, quoi. On n'a rien pendant un bon moment, et puis après, pff, tout tombe. Donc ça fait beaucoup d'un coup. Bon, là au moins ils ont terminé l'arc, donc déjà on n'aura pas besoin d'attendre plus. Donc, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais là on va aller un peu plus en profondeur.
Par contre, juste là-dessus, c'est vrai que bon, moi j'ai galéré. Alors je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais j'ai galéré pour trouver le hors-série déjà. Donc au fait, j'ai eu le DC Universe bien avant, alors que bon, faut lire le hors-série avant le DC Universe évidemment. Et je me demande même d'ailleurs pourquoi ils ont pas appelé ça, pourquoi ils ont pas sorti ça dans un DC Universe hors-série plutôt qu'un Superman Batman. On
Parce
l'a
que
pas dit tout à l'heure, mais
DC
bon.
Universe en série, il y en a un le mois prochain.
Ouais, mais bon, j'ai envie de dire, et alors quoi, enfin, tu sais,
Bah ouais,
bon,
je sais, mais.
c'est des irréguliers, donc à la rigueur, on s'en fiche. Parce
Bah
que
pour.
Superman Batman,
Je
excuse-moi, mais ça n'a rien à voir en
pense
plus.
que c'est pour éviter d'avoir un DC Universe et un DC Universe en série le même mois. Comme le mois prochain, on aura un Superman Batman et un DC Universe en série.
Ouais, moi je trouvais ça plus simple à la rigueur, parce que là, vraiment, c'est pour qui veut se refaire la série après, bah bonne chance, quoi. Franchement,
Ah bah ça oui, ça c'est certain, mais ça c'est
bon
comme
courage,
d'habitude,
sérieusement.
on a l'habitude ça maintenant.
Ouais. Bon, bah voilà, on reprend ce que tu disais.
Oui bah bon bah voilà, enfin c'est comme on disait tout à l'heure, c'est enfin la fin de l'arc quoi, qui dure
Ouais.
depuis donc maintenant très longtemps. Et c'est vrai que comme tu le disais, ça paraît presque trop rapide quoi. On a toute cette montée, il y a une
Ouais.
résolution qui est hyper rapide. Peut-être trop même.
Bah, c'est un petit peu le problème des fins de run. À chaque fois que j'apprécie un run de n'importe quel auteur d'ailleurs, souvent quand il termine son run, bah voilà, c'est toujours une petite fin comme ça, un peu vite expédiée, et il passe à autre chose. Et bon, bah je pensais que Geoff Jones allait nous préparer un truc, un final grandiose. Là, c'est tout sauf un final grandiose, on est d'accord.
Bah, Gog annule tout ce qu'il a fait. Donc voilà.
Bon bah c'était prévisible que de toute façon ça revienne au statu quo, hein.
Ah, je m'attendais quand même à ce que peut-être certains gardent un changement, mais là tu vois finalement.
Et puis il y a peut-être quelqu'un qui va garder un truc, mais
Bah,
bon, on sait pas. Ouais.
Magog qui est le seul à rester finalement alors qu'il avait un bout du pouvoir de Gog. Enfin, en tout cas qu'il avait été touché par Gog, si on peut dire ça comme ça. C'est pas forcément précisé, mais je pense que du coup l'Afrique elle aussi a dû revenir telle qu'elle était.
Oui, je pense. Ouais.
Donc voilà. Là, ouais, la fin est un peu facile, quoi. C'est de la grande baston et ça paraît presque trop facile vu la puissance que, à laquelle on assiste, enfin avec Gog, enfin depuis le
Ouais, bah
début, quoi.
ouais, c'est clair que il fait tellement de trucs incroyables, et puis là, bon, il suffit de quelques pages. Bon, alors c'est de la grosse baston, hein, c'est clair que il faut quand même deux numéros, quoi, en gros.
Ouais, mais
Quasiment.
bon,
Mais bon.
finalement, il est mis à terre par un seul gars, quoi.
Oui, en plus, ouais, puis ouais.
Puis bah.
Oui, ça fait un petit peu dieu de pacotille, quoi. À la fin, on se dit. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il s'est pas un peu foutu de la gueule de tout le monde? Est-ce que c'était vrai? Tu vois, à un moment, je me suis dit, peut-être qu'à la fin, ils vont nous dire qu'au fait, tout ça, il les a manipulés mentalement, qu'il y avait autre chose derrière, tu vois.
Ouais. Bah, je sais pas.
Et là, non. Là,
Là,
au fait,
franchement.
c'est comme si on nous fait, bon, bah, comme si on nous disait, bon, c'est un dieu super balèze, et puis, malgré tout, il peut être battu par une bande de mecs en slip, qui sont, comparés à lui, normalement, totalement insignifiants. Bon. Je sais même plus d'ailleurs qui lui arrive à lui trancher la tête, puisqu'il se
Mais
fait
ça,
trancher.
moi non plus, j'ai pas très bien compris comment il se fait arracher la tête, mais
Je crois que c'est Green Lantern qui se crée une espèce
ouais,
d'épée, mais
son
bon.
armure classique.
Ouais, mais enfin voilà, quoi, de là à trancher la tête à un dieu, bon.
Je sais pas. Moi, enfin, ça m'a paru facile, quoi. Puis bon, après, bah, en fait, le problème, c'est un petit peu le côté tout est bien qui finit bien, qui me dérange un petit peu.
Ouais. Mais
Alors, je pense que, enfin, je le sais aussi. Que cette scission qu'il y a eu dans l'équipe entre les suiveurs de Gog, les suivants plutôt, et ceux qui sont opposés à lui dès le début, va avoir des répercussions.
ah bah tant mieux, parce que bon, vaut mieux qu'il reste quand même quelque chose. Mais par contre, c'est vrai que Jones a peut-être été, comment dire, obligé de se contenter de la place qu'il avait dans JSA pour faire sa saga, étant donné qu'en même temps il y avait d'autres gros bouleversements dans l'univers DC, quoi. Il pouvait pas non plus donner trop d'importance à ça.
Peut-être, ouais.
Parce qu'il y avait Final Crisis, il y avait plein d'autres choses en même temps.
Après, bon, on a aussi le retour de. Comment ça s'appelle? De Superman dans son univers d'origine, au moment où il était parti, c'est-à-dire au moment où explose la bombe à la fin de Kingdom Come. et on revoit les mêmes scènes, quoi. Enfin, c'est. J'ai pas l'impression qu'elles aient été redessinées ou quoi que ce soit, c'est ni plus ni moins que du copier-coller de pages, et si je me rappelle bien, ce sont exactement les mêmes dialogues, donc. Voilà, je sais pas, ça me gêne aussi un petit peu, tu vois, qu'il y a tous ces plans de Kingdom Come.
D'insérer, ouais, c'est un peu facile, quoi.
Mais voilà, je trouve ça aussi, voilà, un petit peu trop facile. La seule différence, c'est qu'Alex Ross va un peu plus loin dans la fin, nous montre jusqu'à 1000 ans ensuite, quoi, ce qui se passe, donc il y a eu quelques nouvelles pages. Mais bon, voilà, enfin, non, je sais pas, ça laisse un goût de trop
D'inachevé,
vite,
quoi.
ouais, voilà, trop vite et trop facile. Et c'est dommage. Bon, je dis pas que ça casse la saga du tout, mais voilà, tout ça pour ça, quoi.
Oui, puis comme je disais tout à l'heure, moi ce qui m'a un peu choqué, c'est le revirement rapide de Gog, de Magog, pardon, qui est, enfin je sais pas, on a l'impression que là il est limite choqué par toute cette déferlante de violence contre Gog, alors que lui vient de buter plein de mecs. Et bon, alors est-ce que quand il est touché par le rayon de Gog, il perd une partie de ses instincts meurtriers, au fait? Ou enfin je sais pas.
Je sais pas, on verra ce que ça va donner, mais de toute façon, sachant que la JSC va s'arrêter bientôt en France, en mois de juillet, toute façon, on n'aura pas la suite, quoi. Ça, c'est
Oui.
dommage.
Alors Panini nous dit que les raisons principales des séries qu'il ne publie plus, c'est parce qu'elles elles sont pas terribles, elles méritent pas d'être publiées. Bon, ce que je doute quand même sur certaines, parce que à côté, il publie quand même des trucs Marvel qui sont nettement inférieurs. Donc bon, voilà.
Ah
Donc,
bon bah de toute façon c'est surtout qu'aux États-Unis il y a eu un bouleversement profond de la JSC quoi. Entre la JSC qui reste telle qu'elle est, plus un deuxième mensuel consacré à une deuxième équipe de JSC et une série solo sur Magog, bah voilà quoi, il y a eu.
alors, la série solo sur Magog, c'était une mini, non?
Ah non non.
D'accord,
C'est une
ok.
régulière.
Par qui? Pas par Tomasi.
Ah je sais pas, je sais plus qui c'est qui l'écrit. Ça
Et
je m'en rappelle.
JSC, je crois que c'est Bill Willingham de
Oui,
Fable.
de Fable. Qui a repris le scénario, alors que la deuxième série, elle est écrite par Matthew Sturgis, qui écrit Jack of Fables, justement.
Ah voilà, d'accord, justement, ok.
Donc le tandem
Et comment s'appelle la deuxième série, JSC?
JSC All Stars.
D'accord, ok.
Voilà,
Bon.
mais ça, on ne l'aura pas en France, à moins qu'ils nous fassent des big books ou trucs comme ça, mais j'y crois pas
Ni l'une
trop.
ni l'autre, a priori, hein, je crois.
Ah ouais, non, aucune, non, apparemment.
C'est ce qui est bien dommage, d'ailleurs. Donc c'est la fin de la JSC, en gros.
Au mois de juillet, normalement.
Ouais. Bon, bah, ça... Voilà.
Bon, on verra peut-être un peu les répercussions de cet arc. Je pense qu'ils arrêteront au moment où Jones quitte le titre. C'est-à-dire, je crois, au 24.
D'accord. Ils disent aussi qu'ils vont arrêter définitivement Titan et Teen Titan, sous prétexte qu'effectivement, Titan et Teen Titan, aussi bien l'un que l'autre, bah, c'est selon eux pas terrible,
Bon, enfin,
et
Teen
voilà.
Titan, ça fait un moment qu'il ne le publie plus, hein. Donc,
Ouais, mais en tout cas, ils comptent pas republier quoi que ce soit de Teen Titan d'ici un bon moment.
bon. Bon, d'ailleurs, justement, on va passer à Titans, donc très bonne transition.
Voilà.
Donc c'est le numéro 9, scénario de Judd Winnick, dessin de Howard Porter et Jim Calafiore, ancrage de Wayne Fauscher et Jim Calafiore.
Et là, justement, on se demande pourquoi nous publier, nous savoir publier
Et ben là
Titan
justement il fait
depuis
partie
des mois.
de ce mois-ci, Faces of Evil, qui donc avait été zappé dans JLA, mais bon comme là il servait l'histoire, en tout cas il continuait l'arc. Voilà, c'était surtout pour nous mettre en avant tous les méchants. Donc là, on a une origine de Jericho,
Ouais. Triste.
légèrement modifiée, hein, puisqu'on voit que finalement, la première fois où il a utilisé son pouvoir, c'était pas la première fois qu'on croyait, mais il l'avait utilisé une fois avant, qu'il ne l'avait dit à personne, parce qu'il s'en rappelait pas. Voilà, c'est clairement un épisode d'attente. Hein.
Ouais, bah enfin bon, enfin l'épisode en lui-même, comparé à certains épisodes précédents de Titan, n'est pas trop mal. Bon, il est sympa, il est sympa.
Ben
Moi, j'ai trouvé ça sympa.
comme il y a 2 mois, il y a 2 mois, les deux épisodes qu'on avait eus étaient plutôt agréables comparés au tout premier. Donc voilà, maintenant c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que c'est un épisode un peu d'attente, quoi. Il se passe pas grand-chose, l'histoire n'avance pas beaucoup, et on a cette fin qui nous laisse présager encore une grosse baston.
Oui, voilà. Moi, j'ai vraiment peur de voir une fin là, New X-Men. Enfin, tu vois le truc vraiment dans Young X-Men, je pense que ça s'appelait.
Oui.
Tu vois la grosse baston finale et puis point barre quoi, fini quoi.
Bah comme on vient d'avoir là dans la JLA ce mois-ci, quoi.
Exactement, oui.
Ça risque. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur et que bah autant là l'histoire avançait bien, puis on a déjà des idées sur comment ça risque de finir. Bon, Verra bien. Bon, l'épisode n'est pas mauvais. Bon, l'épisode n'est pas très bon non plus, hein, faut être honnête.
Bah, surtout graphiquement, c'est pas terrible.
Ouais, c'est vrai.
C'est bon, voilà. D'ailleurs, globalement, depuis le début de la série, graphiquement, bon, c'était atroce avec, je sais plus comment il s'appelait, mais.
Joe Benitez.
Ah oui, oh là, mon Dieu. Oui, enfin voilà quoi, c'était horrible. Là, c'est un peu mieux, ça ressemble un peu plus à quelque chose, mais bon, ça reste. Enfin voilà quoi, c'est pas les top artistes sur Titan.
Non, bah non.
Et
Ouais.
pas que dire de
Quoique
plus.
pourtant, Howard Porter est quand même quelqu'un qui a du métier, quoi. Mais c'est vrai que depuis son accident, bon, faut qu'il reprenne un petit peu le coup, quoi.
Ouais.
Parce que c'était lui qui était sur le run de GLA quand ils avaient relaunché avec Grant Morrison, le scénario.
Ah oui, en effet, ouais, bah voilà quoi. Bah, le pauvre, ça doit pas être évident, mais enfin voilà quoi. Là, c'est pas génial, génial. Et là, sa suite non plus. Et le mec était sur Exil, l'autre là, je sais plus comment il s'appelle.
Jim
Tu l'as
Calafiore.
nommé. Ouais, voilà. Bon, ça fait un peu cartoon. Je sais pas, ils ont des têtes bizarres.
Moi, je suis content de revoir quand même Howard Porter à sa planche à dessin. Au moins, il a retrouvé l'usage de son bras, donc déjà, c'est bien. Mais c'est vrai que bon, bah, il va falloir qu'il reprenne le rythme, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a sûrement Jim Calafiore qui lui a été adjoint. Parce que ça devait peut-être faire trop de dessiner un épisode au complet, quoi.
Enfin, voilà, je trouve ça un peu dommage aussi cette tendance, aussi bien chez Marvel que chez DC, de faire de plus en plus de séries avec des épisodes dessinés par plusieurs personnes.
Moi,
Ça, c'est
ouais,
chiant.
ça me gêne aussi quand un arc n'est pas dessiné par la même personne en entier, ça me gêne.
Oui, puis même maintenant, c'est vraiment des épisodes entiers qui sont dessinés par deux, voire trois personnes. Le record, ça va être dans quelques mois en français sur Spider-Man. Il y aura un épisode, je te dis pas lequel, mais enfin, tu verras, je crois qu'il est dessiné au bas mot par cinq personnes. Un épisode de 22 pages.
Ah ouais, quand même.
C'est énorme quand même.
Bah, quand ça
Bon.
sert l'histoire, comme quand c'est des flashbacks, etc., ça va, mais c'est vrai que là.
Ah oui, non, là, ça va pas servir d'histoire, au contraire. Mais bon, on en parlera d'ici là. Dans quelques mois.
Ok, donc voilà pour le DC Universe, un petit mois quand même, qui a le mérite de nous conclure l'histoire de la Justice Society, mais voilà.
Ouais, enfin voilà, c'est surtout ça, quoi. C'est l'événement, c'est surtout la Justice Society, mais.
D'ailleurs, dans l'ensemble, hein, honnêtement, c'est pas un très très bon mois.
Non, c'est un peu de la merde.
Ouais, franchement, ouais, c'est vrai que
C'est pas terrible, hein.
c'est quand même pas terrible ce mois-ci, c'est dommage, bon, pas
Bon.
grave. Ok, on va passer maintenant à Trinity numéro 5. Donc ce mois-ci, on a Trinity 29 à 36 dans ce tome. Kurt Busiek au scénario, Mark Bagley au dessin, Art Hibbert à l'ancrage. Bon bah c'est ça continue quoi, c'est toujours aussi lisible, hein. On comprend rien.
Ben, c'est surtout, moi je dirais, c'est pas très intéressant. C'est le problème de base de Trinity, c'est-à-dire que c'est une série à la 52, mais autant 52 avait des répercussions sur l'univers DC et ça aurait été dommage de ne pas la suivre, autant là, Trinity, on peut largement s'en passer, quoi. C'est vraiment une histoire en 52 numéros de Superman, Batman, Wonder Woman, mais si on ne la lit pas, ça n'a aucune incidence sur le monde, l'univers DC. Enfin voilà quoi, c'est un truc totalement à part.
Il y a toujours les problèmes de backup de toute façon qui manquent, où on ne suit pas forcément cette baston qui se passe avec cette JSI. Donc, c'est Justice Society International, je crois. Donc, voilà. Qui essaye de défendre les espèces de points qu'attaque Morgan et tous ces. Toute sa bande de super-vilains qui sont nommés après les cartes du tarot. Bon, il y a toute cette symbolique qu'on n'a pas, toute cette baston qu'on n'a pas qui manque un petit peu quand même parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et pendant ce temps-là, on continue de suivre Freddy, Loïs, Robin, enfin Dick Grayson, et puis c'est Kara Zor-El, je crois, qui est là. Et puis il y en a un autre dont je ne sais plus qui c'est d'ailleurs. Et qui sont en fait en train de suivre les espèces de. Je sais pas trop, d'extraterrestres, je sais pas quoi, de cette
Oui.
réalité qui
Ouais.
vénère en fait Superman, Batman et Wonder Woman comme divinité.
Ce qui est d'ailleurs en plus un thème récurrent qu'on a déjà vu dans plein de trucs.
Et
Puisqu'à chaque fois que les héros sont, enfin, ont disparu, on les retrouve toujours en statue et vénérés par un espèce de peuple. Enfin, tu vois, bon.
ouais, ça c'est du classique quoi. Bon,
Oui, on a vu ça dans Spider-Man d'ailleurs récemment.
oui, voilà, avec les quatre fantastiques.
Voilà, exactement. Donc bon.
Là, ce qu'il y a, c'est que au fur et à mesure du pèlerinage que font ces espèces de, je sais pas, enfin, ils se considèrent comme humains, mais c'est assez bizarre. On va dire ce peuple, hein, voilà. Justement, la bande à Freddy, je vais les appeler comme ça, se rappelle un petit peu des événements qui sont passés dans notre monde. Donc, on revoit Wonder Woman qui tue Maxwell Lord. On revoit le combat contre Doomsday et au fur et à mesure qu'ils récupèrent leurs souvenirs, ils commencent à récupérer leur pouvoir, puisque il y a aussi dans cette équipe, j'avais oublié de citer Donna Troy. Voilà. Bon voilà, ça s'arrête là quoi. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près tout l'historique. Ah, j'aime bien la façon qu'ils ont de les appeler, parce qu'ils n'ont pas les vrais noms quoi. C'est pas Diana qui vénère, mais Dinana. C'est pas Kal-El,
Dinana.
mais Kal-El. Et Atman pour Batman.
Ouais.
Voilà, nom légèrement déformé, mais on comprend bien. Et puis ça finit sur le moment où la Trinité se scinde, un peu comme on avait vu à la fin d'Infinite Crisis, où ils ont chacun des divergences et ils se séparent. Et là, on se prépare à la guerre entre les trois divinités,
Ouais, ça.
qui va leur servir simplement à renouer contact l'un l'autre, je pense, hein.
Ça pourrait devenir un peu plus intéressant parce que là, ça stagne vraiment. Mais en même temps, c'est ce que je dis, hein, le problème principal, c'est que bon, il fallait qu'ils fassent un scénario plus que décompressé.
Mais
Ou bien
oui.
alors avoir des idées vraiment pour que ça bouge souvent, mais là, c'est pas trop le cas.
Mais faut penser qu'il nous manque une partie, quoi. Il nous manque une partie. Donc,
Ouais, et
on
puis.
n'a pas l'ensemble de ce qui se passe en même temps sur Terre et qui ajoute aussi un petit peu à cette menace, quoi. Parce que là, on n'a pas l'impression que. On a l'impression, voilà, qu'il se passe pas grand-chose, qu'il n'y a aucune menace en présence, que du côté des méchants, il se passe rien. Voilà, enfin, c'est assez désagréable, honnêtement.
Et puis de toute façon, oui, la faute, c'est surtout incombe surtout à Panini, qui, bah, en fait, moi, je sais pas, en fait, ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont pensé peut-être qu'ils allaient se faire de l'argent avec trois personnages qui sont assez vendeurs, hein, Batman, Superman et Wonder Woman. De toute
Alors qu'en
façon, on les
fait,
voit toujours.
ils sont pas là-dedans, quoi. Ils
Oui,
sont même pas dedans.
mais comme on les voit tout le temps en couverture, là, par exemple, si je prends ils ont choisi la couverture avec Batman, t'as le Joker dessus. T'as Martian Manhunter, t'as l'espèce d'anti-flash, là, je sais plus comment il s'appelle,
Zoom.
Zoom. Voilà, quand tu vois ça, et que t'as lu un petit peu de comics DC, tu te dis, oh bah tiens, c'est peut-être cool ça. Trinity avec Superman, Batman, Wonder Woman, bon bah voilà. Mais derrière cet aspect-là, bah au fait, voilà, quoi, il y a une histoire chiante et.
Honnêtement, hein, moi, enfin, voilà, ma vision des choses, c'est ne le lisez pas ça. Ne le lisez pas. Autant le début semblait prometteur, que là, ça s'embourbe un peu. Et puis, avec ce manque de backup, ça mérite pas qu'on donne de l'argent à Panini pour ça. Je suis désolé. Publié comme de la merde, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est comme de la merde.
Oui,
Ça vaut pas le
c'est.
coup.
Ouais,
Prenez-vous les
c'est.
TPBVO, parce que les TPBVO, si vous voulez vraiment la lire, prenez les TPBVO, vous aurez aussi les backups, et pour un prix assez modique au final, hein. Ils sont pas très très chers, donc voilà. Si vous voulez vraiment lire la série, lisez-la au complet, lisez pas une parodie de série où on nous publie que ce qu'on veut, et voilà, où il manque la moitié, quoi.
Le seul intérêt, c'est vraiment pour les fans, à la rigueur, qui sont fans de Marc Bagley et qui veulent absolument du Marc Bagley au dessin. Bon,
Qui
voilà.
franchement s'en sort bien sur un rythme hebdomadaire quand même.
Ouais,
Alors, c'est pas
qui
son
est quand même
meilleur
une
travail.
machine de guerre, hein, ce type.
C'est sûr que c'est pas son meilleur travail.
Non, 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 c'est pas son meilleur travail, clairement, mais bon.
Mais là, franchement, assurer 12 pages toutes les semaines,
Non, ouais,
c'est pas n'importe qui aurait pu faire ça, quoi.
Non, non, ouais, c'est clair, c'est une
Et
machine de
puis
guerre.
ça reste parfaitement correct.
Oui, moi, il n'y a rien qui me choque là-dedans. Au contraire, même ce qui me choque, c'est plutôt d'arriver à faire 12 pages comme ça par semaine. C'est énorme, c'est considérable. Mais par contre, ce qui me choque surtout, c'est oui, l'attitude de Panini qui en plus nous a servi cette série en nous disant on publie pas Countdown parce que Countdown c'est pourri. Bah bon, écoutez, enfin voilà quoi, on peut pas publier Trinity à moitié en plus. Enfin voilà, c'est.
Moi, je persiste à dire qu'ils ont dû lire les trois premiers backups et ils se sont dit, bon voilà quoi, c'est des origines de personnages, on s'en fout, ça sert à rien. Ce problème, c'est que à partir du 7-8e numéro, les backups étaient importants pour l'histoire en elle-même, quoi. C'était un véritable complément. Il y a même d'ailleurs deux épisodes là, parce que moi je l'ai lu en VO, il y a deux épisodes là où on ne peut pas différencier le backup de l'histoire principale, puisqu'ils sont mêlés vraiment dans les pages, ce qui fait que j'ai eu d'assez gros problèmes à savoir qu'est-ce qu'il fallait que je lise exactement pour lire la même chose que la France. Donc je les ai lus en entier, j'ai fait le tri, quoi. J'ai très bien compris quelle histoire ne servait pas. Je pense que l'origine d'Enigma, nous ne l'avons pas eue.
Je crois pas, non.
Non, bah
Il me
oui, bah
semble
voilà,
pas.
ça c'était donc la partie backup, et c'était tellement mêlé dans l'histoire qu'il n'y avait pas de séparation comme il y a dans certains épisodes avec
Enfin,
deux titres.
je veux pas, je me trompe peut-être, à moins qu'on l'ait eu vraiment dans les premiers numéros, mais je me rappelle plus.
Non, non, mais c'était là, dans ces numéros-là, ça va être dans le 35, je crois. Donc là, si tu l'as pas lu ce mois-ci, c'est qu'il manque
C'est
un
pas
peu.
Bagley au dessin
Non, je ne crois pas, non.
Non, bah non, bah de toute façon là c'est que du Bagley, donc non non mais enfin voilà quoi,
Donc mon
c'est vraiment
conseil,
pour
bon.
vendre quoi, c'est vraiment pour vendre du comics avec la tête de Superman et de Batman
Ouais,
dessus
voilà,
quoi.
on fait marcher le nom, quoi, c'est tout. C'est dommage.
Et
Ouais.
voilà. Et pour 5,40 € ils pourraient quand même nous mettre les backups. Faire un truc
Bah,
du
enfin, disons
CP.
qu'ils auraient pu sortir ça tous les mois avec les backups. On aurait eu le même nombre de semaines, quoi. Et moi, je suis certain que ça se serait mieux vendu.
Bah oui,
Parce
mais non,
que
mais
là, à
de
mon
toute
avis, ils
façon,
doivent
c'est
pas faire
clair.
un gros chiffre avec ça, quoi. Enfin, faut être honnête, cette série, c'est pas bon, quoi. Honnêtement, je pense pas que la prochaine fois on publie. On parlera peut-être du dernier, mais je pense pas que le prochain on en parlera. Enfin, ça dépendra. On le lira avant, on verra si c'est intéressant ou pas, mais je
Ouais,
pense
on
qu'on le
verra.
zappera.
C'est à moins qu'il se passe vraiment un truc effectivement
Voilà, mais
extraordinaire dedans.
parce que là, honnêtement, c'est de la perte de temps et c'est de la perte d'argent aussi, quoi.
Oui, clairement. Clairement, non, c'est pas terrible. Un Kurt Busiek, autant bon, il était inspiré il y a quelques années, par exemple sur Avengers, mais là.
Ah non, moi je suis là, enfin, le concept, je le trouve vraiment bien, je trouve l'idée intéressante. Mais voilà, comme il manque une partie, on a un goût de bizarre, quoi. C'est-à-dire que on sait qu'il se passe des choses, mais on n'a aucune sensation de menace. On a l'impression qu'il nous manque des trucs, et oui, c'est vrai, de toute façon, il nous en manque. Voilà, enfin, c'est tout ça. Et je pense que dans la globalité, ça doit se tenir, mais que ce qu'on a en France, en tout cas, ne se tient pas et n'a aucun moyen d'être lu et d'être compris clairement. C'est impossible.
Ouais. Enfin, bon, bref. Moi, je trouve pas que c'est ce qu'il ait fait. Enfin,
Ah, c'est pas son meilleur travail, ça, par contre, je
oui.
suis entièrement d'accord avec
Ouais,
toi. Mais on reconnaît sa patte quand même, hein, avec les thèmes
ouais, ouais.
abordés. Il y a quand même de la recherche, quoi. Je veux dire, il a fait des recherches par rapport au tarot. Il a essayé de mêler tout ça, en même temps, toujours ce symbole de la Trinité, constamment placé sur
Au
le devant de la
centre, ouais,
scène,
mais
quoi.
enfin voilà, mais enfin voilà, le problème c'est que ça, quoi, c'est que sur 52 épisodes, putain. Voilà quoi, tu sais, faut vraiment les bouffer quoi, faut vraiment en avoir envie.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça va être quelque chose de très super-héroïque et finalement surtout quelque chose de vraiment mystique. Et ça peut aussi surprendre et ne pas plaire. Quand on s'attend du super-héros qu'on se retrouve avec du mysticisme, c'est pas forcément ce qu'on a payé, en tout cas, c'est pas ce qu'on voulait au départ. Pas ce pour quoi on a payé, donc soit on adhère, soit on adhère pas. En tout cas, une lecture comme ça, on peut pas adhérer, c'est impossible. Allez, on va s'arrêter là sur Trinity. On va passer maintenant à la librairie, un petit peu, avec The Zombie, Simon Garth. C'est donc une mini-série sortie sous le label Max, qui s'appelle donc The Zombie, Simon Garth. 4 épisodes, tout est fait par Kyle Hotz, donc scénario dessin, avec Eric Powell qui l'a aidé pour les dialogues. Bien, bah c'est un personnage qu'on a vu dans Marvel Zombies,
Ouais.
dont on ne parlera pas cette fois-ci puisqu'on ne l'a pas lu.
Non.
Enfin, en tout cas, moi je ne l'ai pas lu en entier, et puis toi non plus, donc comme ça,
Non,
voilà.
oui, puis bon, c'est franchement juste comme ça, c'est moyen, hein, franchement, voilà.
C'est ni plus ni moins qu'un film d'horreur, ou j'oserais peut-être même un téléfilm d'horreur.
Ouais, voilà, c'est ça, ça a ce côté, bah moi ça m'a fait penser à, alors c'était un film des années 80, je crois, Le Retour des Morts-Vivants, je crois que ça s'appelait.
Pas Romero?
Non du tout, du tout, du tout. C'était pas Romero, alors je sais plus le nom du mec qui avait fait ce film-là, mais c'était aussi un film assez drôle avec une espèce d'invasion zombie et qui se terminait exactement comme se termine cet album, quoi.
D'accord. Bah,
Voilà.
là, on a
Mais
quand même tous les ingrédients. Enfin, j'oserais peut-être même dire les clichés, en fait,
ouais, voilà, c'est ça, c'est un
des
catalogue.
films d'horreur classiques, quoi. C'est-à-dire que
Ouais.
là, on a vraiment tout. On a les zombies, on a la forêt, on a la toute petite ville, on a la famille de consanguins qui enlève les gens et qui les tue pour les bouffer.
On a le savant qui a laissé échapper sa création.
Ouais, on a l'armée, on a le mari violent qui est à la poursuite de sa femme et qui se fait passer pour un gentil, on a le gentil shérif qui se retrouve au milieu de tout ça, on a les animaux contaminés, enfin voilà, enfin, c'est vraiment tous les clichés, quoi.
Et au milieu, on a Simon Garth, en fait.
Simon Garth, qui d'ailleurs à mon goût, ne ressemble pas du tout à un zombie, mais beaucoup plus à un Frankenstein. Et même dans les poses, quand il porte la femme au tout début, bah, c'est clairement Frankenstein, quoi.
Ouais, moi je l'ai toujours vu comme ça en fait. J'ignorais même avant cette mini qu'il était un zombie. En fait, je connaissais très peu le personnage et en lisant ça, enfin en voyant ça, je me dis, ah ok, d'accord, c'est pas Frankenstein au fait.
Alors, on peut lire ça totalement indépendamment, mais en même temps, on l'a vu dans Marvel Zombies, donc voilà, il y a quand même un petit lien.
Ouais, enfin, par contre, ce qu'il fait dans Marvel Zombies n'a aucun rapport avec ça, quoi. Il n'en parle pas de ce qui se passe là-dedans.
Non, non, mais enfin voilà, le personnage est tiré de là, en tout cas.
Ouais. Et bah, même tiré de comics des années 70, à la base, Simon Garth.
Ah, ça, je savais pas, par contre, tu vois.
Ah oui, d'accord. Ouais, non, mais parce qu'ils en parlent dans l'intro, en fait, en français de Panini. Ils nous expliquent que c'est un personnage qui est apparu en 1953.
Oula.
Publié dans Menace, une revue anthologique d'Atlas Comics, donc la
Ouais,
maison
d'Atlas,
d'édition
ouais.
avant Marvel, quoi.
Ouais, d'accord, bah, je ne savais pas.
Et il a été réutilisé dans la série Tales of the Zombie entre 1973 et 1975. Voilà.
D'accord. Ouais, non, je ne savais pas du tout. Puis honnêtement, j'ai pas fait de recherche du tout sur ce personnage-là. Moi, j'ai pris ça comme ça, vraiment. Déjà, je ne savais même pas qu'il était dans Marvel Zombies, parce que j'ai commencé à lire Marvel Zombies après Simon Garth, en fait. Et voilà, et je l'ai revu dedans, et j'ai fait, ah, d'accord, mais je pensais vraiment que c'était un truc, un personnage pour l'occasion, une mini-série vraiment pour l'occasion. D'ailleurs, je comprenais pas au début pourquoi c'était sous label Max et pas sous label Icon, en pensant que c'était vraiment une création de Kyle Hotz, quoi.
Ah non, pas du tout. Non, enfin, en fait, c'est un vieux perso comme bah voilà, comme Dracula, machin et tout, dans Tomb of Dracula, je crois. Ça s'appelait comme ça. Et voilà, donc là, ils l'ont ressorti récemment. Et il y a déjà eu, à ce que je vois, un album qui s'appelait Zombie chez Panini dans la collection Max alors si je me trompe pas, c'était aussi avec Simon Garth. Enfin, c'est pas précisé.
Bah, moi je suis passé à côté de ce truc-là, tu vois.
Moi aussi, complètement. Là, je m'en
Mais
rends
bon,
compte maintenant, en fait.
ça peut se lire vraiment indépendamment et c'est pas une mauvaise lecture hein, du tout. Hein. Franchement, bon, les dessins sont assez particuliers en revanche. Faut aimer le style. Je suis pas un grand fan, hein,
On
personnellement.
dirait, tu vois, par exemple, les nanas, on dirait des poupées avec des espèces de gros yeux comme ça.
Ouais. Ouais, il y a un drôle de style qui est pas désagréable. Je suis pas fan, mais c'est pas désagréable, c'est pas repoussant du tout. Bon, comme on le disait au début, c'est vraiment du cliché. Hein. Pour ceux qui aiment les films d'horreur, vous pourrez vous amuser à regarder et à voir d'où ça a été tiré. Il y en a pas mal, quoi. Il y a même des rappels aux films d'horreur. Enfin, je veux dire,
Ouais, il y a plein de clins d'œil, au fait, c'est ça qui est assez drôle. Bon.
la gamine qui le compare à Freddy. Enfin, voilà, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Bon, après, on a d'autres thèmes aussi hein, qui sont mis par-ci par-là. Je veux dire, le zombie avec la tête en feu, qui est ni plus ni moins qu'un Ghost Rider, parce qu'on dirait qu'il est tout en cuir. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont sympathiques. Et ça en fait un truc sympa à lire, franchement.
Ouais, voilà, on passe un bon moment, mais bon, c'est pas la lecture du siècle non plus,
C'est pas
mais.
la lecture du siècle, non, c'est sûr.
C'est sympa pour qui aime les monstres, etc. Bon, ça aurait été parfait pour notre spécial Halloween à l'époque.
Ouais.
Je sais plus si on l'avait nommé, mais je pense pas puisque
Non,
ah
du
non,
tout.
puisque tu ne le connaissais pas. Suis-je
Non, je ne
bête?
connaissais pas du tout ce personnage-là.
Donc voilà. Bon bah, qui a ajouté, hein, j'allais dire.
Oh bah on a la fin ouverte classique hein, dont tu as parlé tout à l'heure. Voilà, enfin c'est du traditionnel. C'est du traditionnel, mais c'est sympa justement pour ce côté traditionnel, quoi. Je savais tellement pas à quoi m'attendre en lisant ça que j'ai été plutôt surpris en bien. J'ai eu du mal à me mettre dans le premier épisode, et à partir du deuxième, ça a coulé tout seul.
Moi, je dirais que c'est pour vraiment les fans aussi de série Z, voilà, de.
Ah, c'est peut-être pour ça que ça m'a bien que j'ai bien accroché quoi aussi, peut-être parce que j'aime bien ça au départ, donc.
Voilà, tous ces gens qui, comme moi, ont lu Mad Movies, des trucs comme ça, et bah,
Et
peut-être aimeront The Zombie, Simon Garth.
puis je crois que c'est pas très très cher en français.
Oh non, bah, enfin, y a que 4 numéros, de toute façon, VO, donc c'est à 10 euros. Voilà.
Ouais, bah voilà, bon, pour une dizaine d'euros, franchement, ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment sympa. Donc, voilà. Je vois rien de plus à ajouter.
Non, on peut
Non,
enchaîner. Enchaînons.
non, c'est vrai. On va passer donc maintenant à du Vertigo. Alors, on va pas faire du Vertigo tel que Fable, etc., puisqu'on réserve nos émissions spéciales, en fait, sur les grosses séries Vertigo comme ça. On préfère les traiter plus en profondeur avec un peu plus de temps. Donc, là, on a décidé de parler Vertigo avec le graphic novel qui est sorti chez Panini, donc ce mois-ci aussi, qui s'appelle The Nobody. C'est dessiné, scénarisé, ancré par Jeff Lemire,
Voilà.
que je ne connaissais pas du tout avant, honnêtement.
Moi non plus, pas du tout.
Alors bon, ça fait une 150 pages à peu près, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est assez épais au fait de prime abord.
Et bah, le premier reproche dont tu parlais tout à l'heure, c'est que c'est quand même un peu cher.
Ah bah en français, ouais, l'édition est à 16 euros. Bon, ça fait un peu cher. Alors au début, je me disais, bon, doit y avoir pas mal à lire parce que ça semble assez épais. Ça semble un peu plus épais qu'un volume de Walking Dead, par exemple, puisque c'est le même format quasiment. C'est du noir et blanc, en fait, du blanc et du bleu. Très exactement, il y a trois couleurs.
Bicolore.
Voilà.
Très très strange des tout premiers numéros quoi.
Ouais, il y a
Tout à fait dans ce
un petit peu de
sens-là.
ça, parce qu'effectivement, alors Strange c'était un peu différent parce qu'il y avait du bleu et du orange ou du vert et du je sais pas
En
quoi
fait,
enfin.
ça changeait à chaque page. T'avais une page orange, t'avais une page verte, et puis après l'autre, le numéro d'après, c'était une page bleue, une page violette.
Voilà.
Mais bon, là, c'est vraiment qu'une seule couleur. Hein. Ça ne change pas.
Et que dire, ça se lit vite aussi. C'est ça le problème, c'est qu'en plus ça se lit. Moi, il m'a fallu quoi, une demi-heure? En
Ouais, pareil,
lisant
moi
à
aussi,
bonne
ouais.
allure.
À peu près, ouais.
On va dire, allez, si on prend vraiment son temps, un peu plus d'une demi-heure, quoi. Mais bon, alors le scénario, on va commencer par là. Grosso modo, c'est l'homme invisible.
Version moderne.
Version moderne. En fait, on reprend le personnage de l'homme invisible. Jeff Lemire reprend ce personnage-là de la littérature et le fait arriver dans une petite ville des États-Unis.
Où il n'y a pas beaucoup d'habitants, je crois que 350, qui s'appelle Big Mouth, la ville. Enfin, je sais pas s'ils l'ont traduit en français.
Ah ben, en français, ils ont mis Large Mouth.
Hein, c'est peut-être Large Mouth, c'est peut-être moi qui confonds, hein, c'est
Voilà,
possible. Hein.
ça doit être Large Mouth.
Ouais.
Donc, bon, voilà, bah, ils ont laissé tel quel. Et donc, bon, bah, on assiste à l'arrivée de ce personnage atypique avec ses bandelettes autour du visage, puisque sans bandelettes, bah, on le voit pas.
Oui, c'est
Donc,
clair.
il n'y aurait plus d'histoire à raconter si personne le voit arriver, puisque justement, on assiste à la réaction des villageois, et notamment, il y a une espèce d'intrigue qui se noue entre ce personnage atypique et une jeune fille.
Et d'ailleurs, c'est elle qui est la narratrice en fait hein, de cette histoire.
Oui, tout à fait, qui est la narratrice de cette histoire.
Voilà, bon, ils réagissent de manière bah, comme on réagit dans les petites villes des États-Unis, très méfiant, puisqu'on a ce côté très communautaire et très méfiant d'un étranger, surtout qui porte des bandelettes, qui cache son visage, on ne sait pas qui il est. Il s'enferme dans sa chambre de motel, on le voit quasiment jamais, il sort jamais pour manger, il ne se mêle pas trop à la population. Et tout ça crée un climat de méfiance et même limite on le cherche à savoir qui il est, on l'emmerde quoi complètement, on veut savoir absolument, à part cette fille qui, plutôt que de savoir qui il est de façon forcée, comme essaie de le faire le reste des villageois, prend le temps d'apprendre à le connaître.
Voilà, c'est une espèce de, il y a une espèce d'intrigue au fait, largement dans le bouquin, une espèce d'intrigue amoureuse, sentimentale.
Ben, c'est entre l'amour et l'amitié en fait. C'est à la
Voilà.
limite entre les deux et voilà. Ben, dans l'ensemble, c'est quand même assez. Il y a un petit côté poétique dedans qui s'en dégage.
Ah oui, totalement. Non, non, mais j'allais dire tout à l'heure, narrativement, c'est pas mal, hein. On rentre dedans, c'est sympa à lire. Par contre, bon, c'est désespérément court, quoi. À la fin, on se dit, bon, voilà, enfin, ça aurait été bien qu'il y en ait plus, enfin, je sais pas. Je me suis dit à la fin, bon,
Tout ça pour ça?
tout ça pour ça, ouais, tout
Oui,
ça
mais
pour
c'est un
ça,
peu le
encore une fois.
sentiment qu'on a avec les graphic novels en général. Hein.
Et puis surtout, enfin. L'édition Panini, bon, c'est toujours pareil, hein. Ils vendent ça avec à grand renfort de pub derrière l'édition française.
Oh
Il y
bah
a par
c'est de toute façon la
exemple,
même chose en VO, hein,
voilà, bah, il
honnêtement.
y a pas moins de 5 auteurs, enfin 5 références en tout cas, qui font la pub de cet auteur. Par exemple, il y a le mec qui fait DMZ, la Brian Wood, qui nous dit Jeff Lemire est l'un de ces auteurs complets et parfaits qui crée des histoires magistrales dont le total est plus grand que la somme des parties. Mais la formule super pompeuse,
Ah ouais, c'est
alors on a l'impression
de la
qu'on va
branlotte
assister,
intellectuelle, ouais. Enfin
ouais,
bon.
on va assister à un truc grandiose, et puis finalement, C'est poétique, mais tu vois, c'est comme un court-métrage. Tu vois, voilà, un court-métrage, tu vois, ça me fait penser à ça. Il y a des courts-métrages que tu vois comme ça. Tu trouves ça sympa, mais comme c'est un court-métrage, ça te fait pas le même effet qu'un film. Et ben là, ça aurait mérité, tu vois, une histoire en 10 pages. En 10 pages, ça aurait été cool. En 10 pages, ça aurait été sympa.
Oh non, en
Il y
dix
a un
pages,
graphique.
ça... Non. Parce qu'on là, en fait, c'est qu'on a cette atmosphère. Toute cette atmosphère qui se met en place et on sent le temps qui passe, on voit. En 10 pages, ça aurait pas été possible. On n'aurait pas eu cette même sensation de rentrer dedans. Ce serait pas autant attaché au personnage. Parce que là, on les suit quand même pendant 150 pages. Enfin, je veux dire,
Ah oui, mais
on a de
150 pages, ce que
l'attachement.
je t'ai dit, en 20, enfin allez, en une demi-heure, tu les as lus, quoi. Donc bon.
Mais c'est un graphic novel, c'est un essai, quoi. Ça se lit, bah justement, c'est un roman comme son nom l'indique, hein. C'est un roman graphique. C'est-à-dire qu'il y a des romans, tu les lis, et à la fin de l'histoire, tu te dis, bah j'aimerais bien en savoir plus, mais ça s'arrêtera là.
Ouais. Alors, bon, en fait, moi, je m'interrogeais aussi, surtout hier, quand je l'ai vu en rayon, je me suis interrogé, mais pourquoi Panini prend le risque de sortir un truc pareil. Déjà, c'est du noir et du blanc, enfin et du bleu aussi, quoi. Donc bon, ça n'attire pas des masses, généralement. Hein. Les gens n'aiment pas trop quand il n'y a pas de couleur.
Le
C'est un petit peu le
dessin est
reproche
quand même.
qu'on entend souvent sur Walking Dead, alors que bon.
Le dessin est pas super sans sas non plus. Hein. Je veux dire, c'est pas. C'est simple. C'est efficace, c'est sûr, mais ça reste simple. C'est d'assez gros traits. Voilà, enfin, on n'est pas. Je sais pas. Je pense pas que le dessin doit être très vendeur non plus. En tout cas, de prime abord, quelqu'un qui feuillette ça comme ça va pas être attiré là-dessus pour le dessin, quoi.
Oui, puis par le nom de l'auteur non plus. D'habitude, Panini en ce moment, c'est toujours le comics qui a inspiré le film ou le film tiré du comics ou machin truc. Là, bon bah voilà, il y a pas d'actualité autour de ce truc-là. Donc voilà, enfin, je me suis vraiment demandé. Et puis il y a le prix aussi, donc comme je disais tout à l'heure. Donc je me suis vraiment interrogé, je me suis demandé pourquoi il publiait ça, pourquoi cette prise de risque.
En même temps, je suis content qu'il l'ait fait personnellement parce que c'était sympathique à lire. Hein. Maintenant, le problème, c'est que ça va trouver son public. Ça, moi, je suis moins sûr, hein, c'est certain. Mais c'est pas quelque chose que je regrette d'avoir lu, bien au contraire. Je suis même très content de l'avoir lu. De là à conseiller en disant que c'est vraiment bien, ben, j'irai pas jusque-là. Mais je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut peut-être lire plusieurs fois.
Ah oui, tiens, carrément jusque-là. ouais, enfin, en même temps, bon, c'est comme je te disais, hein, c'est rapide à lire, donc effectivement, tu peux le relire.
Ben, je le relirai pas tout de suite parce que c'est encore trop frais dans ma mémoire, mais peut-être d'ici un mois ou deux, je le relirai pour voir. Peut-être que j'en aurai une autre vision. Je sais pas. En tout cas, j'ai été plutôt surpris en bien parce que je m'attendais à rien du tout. Et
Bon,
voilà.
alors c'est sûr, moi j'allais dire. Peut-être que ça pourrait justement trouver son public du côté des fans de manga, parce qu'il y a pas mal de mangas maintenant qui sont des one-shot au fait, hein, avec des histoires totalement un petit peu de ce type-là, quoi, des trucs vraiment particuliers. Parce que là, bon, le thème est quand même particulier, quoi. Mettre l'homme invisible, pourquoi ce personnage-là, on se demande, dans un contexte contemporain, enfin contemporain, d'aujourd'hui, quoi, puisque bon, débarquer dans une petite ville comme ça, c'est. Bon.
Mais alors, moi je me suis posé une question pendant la lecture, donc attention, petit spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas lu et qui souhaiteraient le lire. Enfin, tu sais, on voit que la gamine, sa mère est partie, elle les a quittés, etc. Et pendant un moment où on voit des flashbacks de ce qui est arrivé à cet homme invisible, on voit qu'il a tué sa femme sous le coup de la colère provoquée par le sérum et ses effets. Et j'avais vraiment l'impression que la mère de la gamine et la femme étaient la même personne. En tout cas, au niveau du dessin, j'avais vraiment l'impression que c'était les mêmes. Alors, c'est peut-être moi qui fais cette association, mais j'ai l'impression qu'en fait, une espèce de boucle est bouclée. Il vient dans cette ville-là et peut-être qu'il n'a pas choisi par hasard parce que c'était cette ville-là que venait sa femme. Je sais pas, c'est cette impression-là que j'ai eue, quoi.
Peut-être, ouais, peut-être. Enfin, oui, moi aussi, à un moment, j'ai eu un problème avec effectivement, avec les personnages, parce qu'il y en avait qui se ressemblaient un petit peu. Oui, j'avais pas fait le rapprochement comme ça. Maintenant, oui, je vois ce que tu veux dire.
Après, je sais pas, il n'y a rien qui nous indique que c'est le cas. Après, à nous de faire la connexion, si c'est Enfin voilà, de se dire est-ce que c'est moi qui pense ça, est-ce que j'ai décidé de penser ça, ou est-ce que non, pas du tout. Enfin, je sais pas. Mais non, enfin moi je sais pas, je trouve que c'est quand même une bonne lecture. Et honnêtement, juste après la lecture, quand j'ai lu ça, parce que j'ai lu ça il y a ouais, presque une semaine maintenant, et à la sortie de la lecture, j'étais pas emballé. Je me suis dit ouais, bof, franchement. Et maintenant, avec le recul, tu vois, j'ai quelque chose que j'ai finalement plutôt apprécié. Je pense que c'est pour ça que je dis qu'il faudra peut-être le relire d'ici quelques temps.
Bah, il est assez attachant le personnage en tout cas. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est que bon, c'est un one shot donc on n'en aura pas plus dessus.
Ben oui, voilà, mais bah c'est graphique novel indépendant, donc c'est un état d'esprit aussi, quoi. C'est vrai que moi, c'est pas trop mon trip. Je suis beaucoup plus mainstream. Mais là, je sais pas, j'ai aimé cette lecture. Donc, après, à vous de voir si vous voulez dépenser 16 euros pour quelque chose qui se lit assez vite.
Oui, voilà, la question, d'où
Et
ma question
qui est
initiale.
vraiment de l'indépendant, quoi, là, c'est clair et net.
Qui va acheter Monsieur Personne? Parce que c'est sorti sous le nom de Monsieur Personne en
Ouais,
français.
nobody, ouais.
Oui, voilà. Bah, personne. Comme je disais. Mais,
Il y a des chances hein, que ça trouve pas du tout son public. Hein, mais, je sais pas.
ouais.
Si vous avez envie de vous essayer à quelque chose de différent, moi je peux vous le conseiller, vraiment.
Ah oui, bah, pour les fans, je disais, voilà, pour les fans d'indé ou de trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Ou même les fans qui sont habitués à du manga, parce que enfin voilà, ça m'a fait penser à certaines lectures que j'ai faites.
Mais ne gardez pas votre avis du moment où vous avez fermé le bouquin. Méditez dessus peut-être quelques jours, vous verrez après, repensez-y quelques jours après, vous verrez. En tout cas, moi je sais qu'au sortir de la lecture, j'étais bof bof et maintenant je suis beaucoup plus emballé en fait. Donc voilà, c'est. Bon, j'irai pas jusqu'à dire comme Brian Wood quoi, mais quand même. Voilà.
Donc, et donc sur Jeff Lemire, apparemment c'est l'auteur multiprimé d'Essex County Trilogy, enfin la trilogie d'Essex County. Alors je sais pas du tout ce que c'est.
Moi non plus. Honnêtement, moi
Voilà.
non plus. C'est ce que j'ai lu aussi sur le livre, mais je ne sais pas du tout ce que
Je
c'est.
sais
J'ai
même
un
pas
mec
si
qui en
c'est du
parle.
roman, si c'est de la bande dessinée aussi. Voilà,
J'ai pas.
j'en sais rien.
Honnêtement, j'aurais pu chercher et je l'ai pas fait.
Non, moi non plus. Bah voilà, donc encore des choses à faire là-dessus, comme quoi le mystère reste complet. Qui est Monsieur Personne? Bah, c'est peut-être Jeff Lemire, en fait, Monsieur Personne. C'est peut-être le message, en fait. C'est parce que vraiment, voilà, ce bouquin est un peu une énigme. Donc c'est vrai. Bon bah, enfin, c'est agréable. C'est agréable à lire. Voilà. Maintenant, à vous de voir si vous mettez 16 euros là-dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah rien.
Non, rien. Si, passons à la suite.
Oh, et puis quelle suite?
Oui, alors voilà, dernière review de ce mois-ci, c'est donc Kick-Ass tome 1. Voilà, la grande sensation du moment, Kick-Ass. Donc, scénario de Mark Millar, dessin de John Romita Jr., ancrage de Tom Palmer, et qui contient les 4 premiers épisodes de la série. Donc, sorti sous le label Icon, hein, qui est le label des indépendants chez Marvel, en fait. C'est du créateur-owned, mais chez Marvel. Donc ça ne
Chercher
se
l'erreur.
passe pas ça ne se passe pas dans l'univers Marvel classique et les créateurs restent maîtres de leur création.
Reste chez eux.
Voilà. Comme on a Powers chez Icon par exemple, ou encore les Criminals de Brubaker, ou Incognito dont on parlera le prochain podcast. Donc, alors, Kick-Ass, on le sort maintenant en France parce que bah, y a le film qui arrive le 21 avril en France, hein, c'est la date de sortie officielle. Bon, que
Et
dire?
surtout, on le sort en deux fois.
Oui, bah oui, en deux fois, oui,
Oui. Bah
il y
oui,
aura
parce
8
que.
épisodes.
Oui, on pouvait pas mettre les 8 dans un.
Bah, le 8 vient de sortir, je crois. Donc
Oui, enfin
au
bon,
niveau
oui.
du délai de traduction et pour le sortir à temps pour le film, ça collait pas, donc on le sort en deux fois.
Bon, allez, on va dire que c'est bon pour cette fois.
J'arrive à comprendre, je suis pas d'accord, mais j'arrive à comprendre
Ouais,
pourquoi.
d'accord. Bon,
Voilà.
d'accord. Moi aussi, d'accord.
Voilà.
Vu sous cet angle, allez, on va être gentil.
Bon, alors, eh ben, quasiment tout le monde aime. Hein. Pas de chance, là, vous allez tomber sur deux qui n'aiment pas.
Le seul sur Terre qui n'aime.
ouais, voilà, donc, ouais, moi, clairement, je n'aime pas Kick-Ass. Hein. Je n'aimais déjà pas, là, à l'époque où c'est sorti en VO et je les avais lus. Je les ai relus, là, pour l'occasion, pour le podcast. Je me dis peut-être que j'aurai une vision différente. J'ai essayé de me remettre dans un état d'esprit neuf, vraiment, en essayant d'oublier que je n'aimais pas, etc. Et rien à faire, ça passe pas.
Non, bah écoute, je sais pas dans quel monde on vit. Moi j'ai envie de dire, moi ça me subjugue de voir des gens qui trouvent ça. Enfin, c'est même pas qu'ils trouvent ça bien, parce que bon, on peut aimer à la rigueur, Kick-Ass. Mais de là à faire l'apologie, tu vois, de ce truc, Bah moi ça me dépasse totalement. Je me dis mais enfin j'essaye de comprendre, tu vois, l'intérêt et bon. Alors, commençons par le commencement, le scénario. Donc le scénario c'est marqué sur la couverture le premier vrai super-héros.
D'accord. Alors déjà, là, rien que ça, déjà, c'est de la connerie.
Mais alors derrière c'est carrément marqué la plus grande BD de super-héros de tous les temps est enfin arrivée.
Bon, ben, ça c'était déjà un peu ce qu'on avait aussi en VO quand c'est sorti, hein.
Et puis non mais attends, mais on continue dans le délire. On a aussi marqué dans le résumé, le réalisme a un nouveau visage chez les super-héros qui cassent. Alors ça, c'est réaliste.
Ben oui, alors moi je vois pas ce qu'il y a de réaliste là-dedans. On commence par quelque chose qui se veut réaliste, et alors les incartades de YouTube,
Ah
le
oui, alors
gamin qui
attends.
va à l'école, qui lit des comics et qui se prend pour un super-héros, enfin, en tout cas qui voudrait devenir un super-héros en se disant ouais, je comprends pas pourquoi personne n'y a pensé avant. Jusque-là, c'est réaliste. Le gamin qui a des problèmes à l'école, machin, il n'y a pas de problème. Sa mère est morte, il vit seul avec son père. Jusque-là, je peux m'identifier au personnage. Enfin, m'identifier, non, parce que c'est pas, ça m'est pas arrivé, mais en tout cas, je peux comprendre le personnage, etc. Il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où il se prend la branlée de sa vie à la fin du premier épisode, qu'il est moitié dans le coma pendant des mois et des mois, je suis désolé, là, on vire dans le total surréaliste. Et
Oui,
alors, ne
déjà.
parlons même pas d'It Girl.
Ouais, non, 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 voilà. Donc, on va reprendre les choses dans l'ordre. Donc, le mec veut devenir un super-héros. Donc, comme tu le dis, le pitch initial est réaliste. Mais seulement, il n'y a que le pitch initial qui l'est, puisqu'ensuite, on part totalement dans le délire. Et je dirais, ça monte crescendo dans le grand n'importe quoi. Et moi, ce qui me dérange le plus dans Kick-Ass, c'est cette déferlante de violence. Il y a deux choses. Il y a la déferlante de violence et la
Gratuite, mais c'est totalement gratuit en plus.
gratuite et la déferlante de références culturelles. J'allais dire gratuite aussi.
Référence culturelle, c'est surtout Millar qui nous fait passer ses idées, et ça, je n'apprécie
Non, non,
pas.
mais de références culturelles type YouTube, etc.
Alors, ouais.
Et des références à des séries télé, des références bah, ce que font les jeunes actuellement, par exemple, le mec nous dit je passe mon temps dans ma chambre à télécharger des séries et à me branler devant des pornos, bon très bien. Enfin voilà, on est à ce niveau-là. Bon.
Bah, au niveau du réalisme, ça, moi, ça m'a pas dérangé encore. Les références à des séries télé, etc., m'ont pas dérangé. Ce
Non,
qui
moi
m'a
non plus, mais.
vraiment dérangé, c'est quand Millar nous dit que, voilà, il nous dit que de toute façon, les films de super-héros, faut les accepter pour ce qu'ils sont. Des mecs en spandex qui se baladent dans la rue, ça fait ridicule. Bah, bon, voilà, qu'est-ce qu'il fait, le gamin? Il va faire la même chose. Donc, déjà, je trouve ça complètement contradictoire. Et puis, le fait qu'il nous veuille nous faire passer cette idée-là, ça passe pas. De plus, la pub, sa propre pub, son auto-promo de 1985, me reste en travers de la gorge.
Oui,
Je
alors il
ne
y a
supporte
l'auto-promo,
pas ça.
il y a aussi la promo des amis. Par exemple, à un moment, il fait dire à son personnage que les Astonishing X-Men de Whedon, c'est encore meilleur que ce qu'il a fait sur Buffy.
Oui, bah oui.
Bon, déjà, Buffy, moi, j'aime pas. Je suis allergique depuis le collège. Je supportais pas. J'avais envie de foutre des claques à toutes les filles qui regardaient Buffy. Bon, enfin voilà, quoi, ça c'est personnel. Mais en plus, dire les Astonishing de X-Men, c'est géant, etc. Les Astonishing de Whedon, je veux dire.
Ouais.
C'est géant, etc. Voilà quoi. Au secours.
Bon voilà, moi c'est ça, c'est que bah on a vraiment tout Millar. Bon déjà ça tombe mal, c'est vrai que moi, de toute façon, les gens qui écoutent le podcast régulièrement le savent, je suis pas du tout un fan de Millar, bien au contraire. J'ai plutôt même tendance à pas aimer ce que fait le gars, sauf à de rares exceptions, comme 1985 que j'ai bien aimé. Mais là le fait qu'il nous force son auto-promo, déjà ça j'apprécie pas. Qu'il fasse ça dans sa colonne, dans les colonnes après de pub, enfin de lettres, de pages de lettres comme on a aux États-Unis. Bon, je sais qu'on les a pas en France, mais dans les lettres, etc., dans les postfaces et tout, il n'y a pas de problème. Bendy, c'est ce qu'il fait dans ses séries, notamment sur Powers. Kirkman fait exactement la même chose aussi dans ses colonnes de lettres sur Walking Dead ou sur Invincible. Il fait de la promo pour ses autres séries. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais qu'on nous le fasse dans le comic même, là, par contre, je suis pas d'accord. Moi,
Oui,
c'est quelque chose qui me plaît pas du tout.
c'est comme si on voyait Rick dans Walking Dead dire waouh, c'est génial ce comics de Invincible que je viens de trouver dans
Exactement,
une
voilà.
baraque abandonnée.
Moi, ça me ferait pas rire, quoi. Surtout si ça se veut un tantinet réaliste, quoi. Là, on sent bien que c'est le mec qui parle. Alors, c'est un gros délire. C'est, voilà. Maintenant, bon, ça reste un gros délire. Et puis, bon, entre la violence et ce passage constant de ses propres idées, c'est vraiment Millar qui fait son show, quoi.
C'est le Millar Show, ouais, c'est le Millar Show. Mais tu vois, c'est ce qui m'énervait un petit peu aussi chez Bendis. Alors, je sais que Mig et toi le percevaient un petit peu moins comme ça, mais moi, quand je lis du Bendis, par moment, voilà, j'ai toujours l'impression qu'il fait passer ses idées à travers ses personnages. Et ça a tendance à m'irriter assez. Et là, bon, alors Millar, c'est puissance 10, quoi. Là, c'est vraiment...
En fait, voilà, le problème, c'est que Millar a tendance à faire imposer ses idées comme la réalité vraie. Et c'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que quand on lit le truc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est qu'il faut penser comme il pense. Et son côté provocateur et la façon dont il fait les choses, ça donne cette impression, je vous impose mes idées, si vous n'êtes pas content, allez vous faire foutre. Et moi, ça, j'apprécie pas. Chacun est libre de penser ce qu'on veut. Moi, personnellement, les X-Men, je trouve que c'est totalement de la merde en film, tu vois, par exemple. Et puis personne ne me fera changer d'avis, je veux dire. Mais c'est pas pour autant que je vais, si j'allais me faire une BD, j'allais écrire mon propre scénario, etc. Je vais pas aller dire les X-Men c'est de la merde. Non, enfin, qu'on fasse des références à la pop culture, qu'on fasse des références à Marvel, je suis d'accord. Bon, il bosse pour Marvel, il est publié chez eux, d'accord, ok. Mais de là à vanter sa propre série, puis la façon dont il le vante, c'est quand même bien insistant, quoi. Il nous prend quand même deux cases là-dessus.
C'est lourd, c'est très lourd, moi je trouve.
C'est imposé, c'est ça qui me gêne.
Ouais, et bon, moi ce qui me gêne aussi surtout, c'est comme je te disais tout à l'heure, il y a de la violence, il y a des références à YouTube, etc. Et de la vulgarité. Enfin, je veux dire, c'est des gros mots tout le temps, quoi.
Ah bah oui, bien
Enfin,
sûr.
je veux dire, et en plus je suis du style à bien aimer le Punisher, donc on peut pas me qualifier de sainte Nitouche, quoi. Tu vois, je bon, mais là. Là, c'est trop, quoi. Là, c'est trop. Et on a l'impression que, voilà, pour les gens, c'est cool. C'est cool. Du moment qu'il y a du sang à outrance, des insultes, etc., ça se termine quand même sur Kick-Ass. Ça se termine quand même sur une gamine de 10 ans en costume de super-héros. Donc déjà, bon, le ridicule ne tue pas. Mais en plus,
On
elle
serait mort
dit...
depuis longtemps déjà rien que nous, alors.
Oui, elle dit, ça se termine sur ces mots, quel sale connard. Trois petits points. Voilà. Dernière page de Kick-Ass, du volume 1. Bon, ça résume, la dernière page résume tout, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, Kick-Ass. C'est vraiment un gros délire. Alors, qu'on nous dise que c'est réaliste, mais attends, mais je rigole,
Mais d'où une
je
gamine de
rigole.
10 ans va se trimballer avec des sabres et va découper des gangsters, quoi.
Et voilà, une gamine de 10 ans, ça c'est le meilleur passage pour montrer à quel point c'est réaliste, Kick-Ass. Il y a ce fameux passage où une gamine de 10 ans arrive seule à découper avec des sabres, donc déjà faut avoir une force, parce que je sais pas si
Affûté ou pas, faut
Millar,
voir, c'est clair.
est-ce que Millar a déjà tenu un sabre? Faut avoir déjà une force phénoménale à cet âge-là pour ne serait-ce que le manier correctement.
Surtout quand on voit la longueur.
Surtout quand on voit la longueur des trucs, elle en a deux, elle en a un dans chaque main.
Ils sont aussi grands qu'elle, quoi.
Et, oui, elle arrive à découper une bande de mecs qui font trois fois sa taille, trois fois son poids, et encore,
T'es
trois
gentil?
fois plus que ça, bien sûr. Et elle les découpe en morceaux. Les mecs, c'est comme s'ils étaient en papier, ils réagissent pas d'ailleurs. C'est des gangsters, ils n'ont pas d'armes. Alors, comment fait la nana avec ses sabres si elle se retrouve face à un gangster armé? Bon, bah c'est pas grave, Millar ne nous met pas cette situation pour le moment.
Ben, il suffit de regarder la bande-annonce du film et tu vois qu'elle est capable d'éviter les balles en plus.
Ah, bah, formidable. Non, mais là, on est dans le réalisme à outrance, j'allais dire.
Oui, mais complètement. Mais c'est ça le problème, c'est que ça se veut comme réaliste alors qu'en fait ça ne l'est pas du tout. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas. Et en plus, ce qui m'a vraiment gêné, bon, tu parles de la gamine justement, et c'est aussi à ça que je voulais en venir, c'est que déjà, graphiquement, elle n'a pas une gueule de 10 ans, on dirait qu'elle a 4 ans. Et je trouve que John Romita est loin d'être à son meilleur là-dessus, quoi.
Non, parce que de toute façon, bon, c'est de la purée, dans tous les sens du terme, puisque, enfin voilà quoi, enfin, voilà quoi, tu m'as compris, et tous les gens le comprendront d'ailleurs. Mais non, mais il est clairement là pour faire du fric. C'est-à-dire,
Ah
Millar
bah
est
oui.
allé chercher l'un des mecs qui vend le plus de comics. En étant, enfin, en dessinant, quoi, l'un des dessinateurs les plus populaires. Mais Panini va même jusqu'à dire dans la préface, alors j'essaye de retrouver le passage parce que c'est quand même énorme. Ah oui, voilà. Il fait appel à John Romita Jr., le meilleur dessinateur de comics américain. Point. Voilà. John Romita Jr., c'est le meilleur dessinateur de comics américain. Il n'y a pas au-dessus. Ça, c'est Panini.
Ouais, bon.
C'est C'est quand même du, enfin, c'est quand même.
Ouais, mais les superlatifs, ça sert à faire vendre, quoi, comme d'habitude.
Ouais, mais là, c'est quand même. Enfin voilà quoi, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que bon, c'est lui quoi. C'est même plus une question de goût, comme tu disais tout à l'heure, les goûts et les couleurs. Là, c'est on te dit bon bah c'est lui, voilà. Donc t'as même pas à donner ton avis. C'est lui le meilleur. Bon, ok, d'accord.
Bah,
Merci
moi,
Panini.
l'autre problème qui me gêne un petit peu avec cette sortie Panini, c'est que bon, le 1 à 4, ils auraient pu déjà le sortir un petit peu avant, honnêtement.
Bah oui, pour sortir la fin.
Là,
Ah non,
je,
bah,
bah oui,
tu
bah enfin ouais, ils auraient pu essayer de se débrouiller, je sais pas, mais je crois que si je me souviens bien, je crois que le deuxième tome paraîtra en juin. C'est ce que j'avais cru voir passer, je
Oui,
vais peut-être me
longtemps
tromper.
après le film. Donc en fait, on aura déjà vu le
Et bah oui,
film.
voilà, on aura
Et
vu
de
tous la
toute
fin
façon,
avant.
on est
Déjà, il
là.
suffit de voir la bande-annonce, il y a plein de scènes qu'on n'a pas vues dans le comic, donc.
Oui, Panini aurait pu sortir effectivement le premier tome et sortir le numéro 2 avant le film.
Alors
Quand on
bon.
voit que Delcourt arrive à sortir Haunt un mois après la sortie américaine,
Ouais.
donc voilà, je pense que
En nous
Panini.
publiant Kick-Ass tome 2 le 15 avril, enfin, là, le mois prochain, vers le 15, il nous sortait la fin, et parce que honnêtement, bon, c'est vrai que quand on a commencé une série, généralement, on aime bien aller jusqu'au bout, mais si les gens qui ont aimé Kick-Ass vont voir le film et sont pas convaincus par le film, ils n'achèteront pas le tome 2.
Ah ben oui, exactement.
C'est un risque mercantile assez énorme.
Effectivement, ouais. Et
Alors, par contre, c'est pas cher. C'est quand même
bah,
le point
c'est
bénéfique, ça.
4 volumes VO,
Oh,
donc bon, pareil, là aussi, hein, ça se lit très vite.
oui, assez
Bon.
vite, oui.
Ouais. Bon,
Mais il y a plein de trucs quand même qui me. Bon, on ne le sait pas forcément, je ne sais pas s'il l'explique, mais qui sont un peu débectables. Je veux dire, le nom
Ah
du
oui.
personnage a été donné par celui qui a été au plus offrant. Bon, par contre, toutes les ventes, tout l'argent a été donné à une œuvre de charité. Donc ça, c'est très bien. Ça, par contre, je dois avouer, c'est très beau geste de la part de Millar. Maintenant, le nom du personnage est le fan qui a donné le plus d'argent.
Ouais, c'est fin. Voilà, tu vois, c'est
La
bon.
campagne promotionnelle a été faite avec des posters que les gens des comic shops imprimaient eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et donc, il les remerciait tout le temps en mettant le nom et les adresses des comic shops qui ont participé à l'opération à la fin de chaque épisode. Voilà, c'est le problème, c'est que c'est que du copinage.
Bon alors, et tu vois, auprès de certains fans, ça c'est être un visionnaire, c'est être cool.
Alors,
Bon,
la campagne virale, je suis d'accord, il marche très bien à la com, etc. Mais le problème, c'est que, je sais pas, c'est qu'on veut nous faire croire que c'est le top du top du top du top, il n'y a pas mieux.
bah, c'est même pas. En fait, le
Et
problème,
bon.
c'est que c'est même pas qu'on veut nous faire croire, c'est qu'il y a des gens qui le croient, puisque ça a un succès quand même incroyable, et il y a des gens pour qui c'est extraordinaire cette série. Donc j'essaye de comprendre, tu vois, parce que. Et puis il y a plein de trucs comme ça, tu vois, même quand je lis l'histoire, je me dis, mais qu'est-ce que c'est con? Un autre exemple. Il se fait complètement tabasser, donc il est en rééducation. Et
Bah,
il
il
dit à
passe
un
des mois et
moment.
des mois, quoi.
Quoi?
Il passe des mois et des mois en
Et
rééduc.
exactement, des mois et des mois, et il dit très bien que son père doit payer des 1000 et des 100 en frais médicaux, etc.
Là, on est dans le réalisme. Là, c'est clair.
Alors, je fais les comptes des factures que je représentais, j'ai pleuré pendant 3 mois. Voilà, c'est ce qu'il dit. Page suivante. Il prend tous ses comics et il les brûle.
Il pourrait pas les vendre pour aider son père?
Voilà. Et
Moi aussi,
là,
j'ai pensé exactement la même chose.
je me suis dit, mais quel con! Mais quel con! En plus, il en a des 1000 et des 100, et il fait, je les emmerde, j'emmerde ses BD, j'emmerde ses persos débiles. Et il les brûle, comme un con. Je veux dire, en plus, non seulement l'histoire est complètement con et complètement absurde, puisque totalement surréaliste, mais en plus, bah, on ne peut pas dire qu'il a inventé le fil à couper le beurre, quoi.
Non, c'est clair.
Bon, en même temps, il se fait tabasser tellement de fois que effectivement, il doit plus lui rester grand-chose dans la tête. Parce qu'avec tout ce qui se prend, il devrait être mort. Ah oui, alors
C'est les
aussi,
plaques de
quelque
métal,
chose de
ça.
réaliste, il devrait être mort 10 fois, déjà, ne
Ouais.
serait-ce que dans le premier volume.
Ah bah à la fin de l'épisode 1, il mange tellement que tu te dis comment il survit, quoi.
Non mais je sais pas, mais en tout cas que les gens qui trouvent ça réaliste se manifestent et nous l'expliquent pourquoi c'est réaliste, parce que là, mis à part le pitch initial, mais Millar ne. C'est ça le problème avec Millar, c'est qu'il a toujours un pitch initial qui est pas mauvais. Enfin, ça dépend des fois, mais quelquefois le pitch initial n'est pas mauvais. Il y a une promesse, et au fait, 3 pages après le début, il part dans le délire. Tout le temps. J'ai lu le premier numéro de Némésis d'ailleurs. Pareil, la promesse, et si le Batman était le Joker, bah au fait, c'est pas du tout ça, quoi. Parce que pour moi, Némésis,
Bah
c'est
de
pas du
toute
tout.
façon, je ne l'ai pas lu personnellement, mais j'ai lu pas mal de critiques parce qu'il parlait sur la net et c'est complètement descendu par tout le monde, hein.
Bah oui,
Donc,
non, mais il serait temps. Il serait temps parce que. Mais je me demande pourquoi Kick-Ass n'a pas aussi été descendu. Alors bon, vraiment, je comprends pas, quoi, parce que c'est vraiment l'homme du même acabit. Némésis fait encore pire, je dirais. Némésis fait encore pire. D'ailleurs, Millar faisait même sa pub là-dessus en disant que Kick-Ass à côté, c'était de la merde. Alors
ouais.
bon, si
Quand on
pour
casse
Millar,
sa
Kick-Ass
propre
à côté,
série,
c'était de la merde, qu'est-ce que ça doit être Némésis, hein? Mon Dieu, faut s'attendre à quelque chose
Mais
d'extraordinaire.
c'est le côté provocation, quoi. Et c'est le côté j'en mets trop, j'en mets trop, j'en mets trop. Je pense que, honnêtement, pour moi, Millar devrait faire quelque chose. C'est utiliser la méthode Stan Lee d'aujourd'hui, c'est-à-dire trouver le concept et puis laisser quelqu'un d'autre scénariser à sa place, qui temporisera pas mal.
Bon, et puis aussi, il y a aussi le côté, tu vois, au début, on présentait Kick-Ass comme quelque chose de novateur. Or, il faut savoir une chose, c'est que les gens qui se prennent pour des super-héros, ça existe aux États-Unis.
Oh bah oui, depuis longtemps.
Depuis très longtemps. D'ailleurs, ils nous en parlent absolument pas dans la préface de
Ah bien
Panini.
sûr que non.
Mais en plus, pour que ce soit cool, tu sais, Millar se sont obligés à chaque fois de servir de références comme YouTube, etc. Bon, il y a fort à parier que prochainement on aura genre un truc de Millar, ce sera genre les super-héros sur les réseaux sociaux, il nous parlera de Facebook, etc., de Twitter, il va nous faire un super-héros personnage principal
Là, il
qui
nous
n'est pas
parle quand
trop
même de
poker.
MySpace, hein, donc il aborde le thème des réseaux sociaux.
Là, ouais, il y a aussi MySpace, c'est vrai qu'il y a aussi MySpace.
Qui est
Il manque
beaucoup
plus.
plus utilisé aux États-Unis que chez nous, hein, quand même.
C'est vrai, ouais, nous c'est plus Facebook et Twitter à
Aux
la
États-Unis
rigueur.
maintenant aussi, mais c'est vrai que MySpace a eu et a toujours une bonne part, en tout cas aux États-Unis. Donc,
Ouais, une bonne place, MySpace. Mais bon, voilà quoi, il manque plus qu'un personnage qui soit fan de poker et qui travaille dans une société qui fabrique comment dire, des applications iPhone, et voilà quoi, on est au top de la mode, hein.
ouais,
Donc bon.
effectivement. Tu tiens quelque chose
Là,
là.
oui. Là, voilà, non mais bon.
Dépose vite le concept.
Ah, puis oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure aussi par rapport au fait que Millar n'a rien inventé, c'est que, et je te le disais l'autre fois, il y a un petit côté Kill Bill là qui casse.
Ah, c'est peut-être le côté épais de Hit Girl.
Le côté épais, puis même dans la, dans le, je sais pas, dans la présentation des persos, enfin voilà quoi, un côté un peu too much.
C'est vrai que le gamin a un style très années 70, hein, ça c'est certain.
Ouais, et puis même, tu vois là, enfin la présentation qui casse, moi ça me faisait penser à Kill Bill.
Sa combinaison aussi peut-être peut faire penser un petit peu à celle qu'a Uma Thurman.
Aussi, ouais. Donc, comme quoi, voilà, quoi. À mon avis, Millar veut faire passer un truc révolutionnaire pour, en fait, un truc qui a rien d'une révolution, quoi. Et puis, en plus, c'est juste con, quoi. Non, mais avec tous les exemples qu'on a donnés, voilà, ça fait 20 minutes, et en 20 minutes, on arrive toujours à trouver des trucs à dire dessus de mauvais, quoi. Donc, bon,
Vous l'aurez compris, nous on n'a pas aimé quoi.
Bah oui, qu'est-ce qui reste de bon? Bah on vous pose la question, donc réagissez. Je pense que là, avec Kick-Ass, voilà, ça devrait le faire. On devrait avoir des
N'hésitez pas.
réactions.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, puis surtout, n'hésitez pas à nous contredire, hein. Justement, on est là pour aussi voir vos avis. Bien, voilà, ça conclut notre 28e numéro. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours, donc pour la première fournée des sorties du mois. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur iTunes, comme toujours. Vous pouvez bien sûr réagir par les commentaires en nous envoyant un mail à l'adresse podcast@comiccity.fr pour nous poser des questions ou quoi que ce soit que nous lirons et essaierons d'y répondre en tout cas dans les prochains épisodes. Et puis bah, d'ici là, hein, comme d'habitude, portez-vous bien.
À bientôt.